Bienvenue sur Entreprendre dans la mode, le podcast des entrepreneurs et des acteurs de la mode. Je suis Adrien Garcia, designer et fondateur de la marque de vêtements Réunis. Chaque semaine, je vais à la rencontre d'une personnalité du monde de la mode pour comprendre son parcours, ses problématiques et ses stratégies pour innover et se développer. Avec ce podcast, je souhaite recueillir et partager des conseils pratiques et des idées neuves pour se lancer et réussir dans la mode. Entreprendre dans la mode, c'est aussi une newsletter dans laquelle je partage chaque vendredi les outils, les méthodes et les apprentissages clés d'un entrepreneur à succès. Pour ne pas rater les prochaines, inscrivez-vous gratuitement sur www.entreprendredanslamode.com. Enfin, si vous souhaitez sponsoriser ou co-créer du contenu avec Entreprendre dans la mode, c'est possible. Là encore, rendez-vous sur le site web du podcast. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Entreprendre dans la mode. Je suis aujourd'hui avec Caroline Petit, la fondatrice de 3-7. Salut Caroline.
Salut Adrien.
Je suis ravi de te recevoir aujourd'hui. Ma première question, tu la connais, c'est est-ce que tu pourrais te présenter ? Qui es-tu ? D'où viens-tu ? Et revenir sur tout ton parcours depuis ta plus tendre enfance à aujourd'hui, parce que tu as fait pas mal de trucs en fait. Hein.
Oui, j'ai eu plusieurs petites vies dans cette petite première partie de ma vie de jeune fille d'adulte.
Ouais.
Déjà, merci de m'accueillir.
Je t'en prie.
Alors j'ai 39 ans, je suis née, j'ai grandi à Paris, je suis née à deux puisque j'ai une sœur jumelle qui s'appelle Alix, qui est la fondatrice de Hemstone, et on a un grand frère qui a 18 mois de plus que nous, donc on a grandi un petit peu comme des triplés. On travaille tous beaucoup ensemble, donc moi j'ai fait mes études à Paris, j'ai fait une maîtrise de sociaux et ensuite je suis partie travailler chez TBWA à Paris. Au planning stratégique, et j'ai vite pris mes valises et je suis partie à New York. J'ai eu la chance de pouvoir m'envoler à un jeune âge et j'ai fait 3 ans au planning stratégique chez TBWA Chayat D à Manhattan. Et ensuite, j'ai tout plaqué pour changer de vie. Donc, je devais avoir 24-25 ans. J'avais adoré TBWA, j'ai énormément appris. Ça m'a permis d'apprendre une langue, d'apprendre une culture, de bosser avec des gens qui étaient hyper smart et enfin j'étais toujours étonnée de voir ces filles qui avaient 22-23 ans et qui tenaient les rênes de cette énorme boîte. Donc ça m'a vraiment donné un côté, je veux dire, assez business et travail en entreprise qui a été très formateur, en plus dans un autre pays, dans une autre langue, avec toujours la sensation qu'aux États-Unis, peu importe ce qu'on a à en dire, ils ont quand même toujours 10 ans d'avance sur beaucoup de sujets, donc ça a été vraiment hyper intéressant. Et j'ai fini par démissionner au bout de 3 ans et demi. J'avais rencontré mon mari, qui n'était pas encore mon mari, Jonas, qui lui était mannequin et photographe. Donc il avait une espèce de liberté extrême. Il n'était jamais stressé. Enfin, c'était vraiment deux vies complètement parallèles. Il était libre comme l'air. Il partait aux quatre coins du monde pendant quelques jours pour des shootings. J'avais ça et puis j'avais aussi ma sœur jumelle, donc qui venait de monter Hemstone quand je suis partie vivre aux États-Unis et qui m'a paru aussi avec beaucoup d'autres stress, mais en tout cas la liberté de pouvoir voyager aux États-Unis. Elle avait à l'époque un agent aux États-Unis, donc elle voyageait, elle faisait des shootings un peu à droite à gauche. Et moi j'étais, je me rendais compte en fait que j'étais très, je me levais le matin pour aller bosser, donc je voyais très peu Manhattan à part les week-ends et les moments de libre que j'avais. J'étais très stressée par mon boulot parce que j'ai toujours été soucieuse de bien faire mon travail. Donc, comme j'avais des lacunes en anglais, j'arrivais à 7h du mat, ce qui n'a pas trop changé, au bureau. Je repartais tard, mais voilà, j'avais toujours le souci de mieux faire, etc. Donc, j'ai beaucoup progressé. Mais voilà, j'avais un manque, je pense, de un petit peu, je vais dire, de liberté peut-être. Et surtout, je devais sentir au fond de moi qu'il y avait autre chose, que là, j'avais appris beaucoup de choses et que ça pouvait être un puits sans fond. En fait, j'aurais pu y rester une vie entière. Mais je sentais que quelque chose m'appelait. Puis j'étais aussi très inspirée par Jonas et ma sœur. Donc il fallait que je fasse autre chose. Et je ne saurais pas exactement comment redire le détail de comment on a commencé ça. Parce que je vais évidemment le romancer un petit peu. Ça a été un petit peu plus sportif dans la réalité. Mais voilà, on a décidé de... Enfin, moi, j'ai quitté TBWA et on a décidé avec mon mari de voyager, de traverser les États-Unis pour aller chiner plein de vieux meubles. Donc le business plan, autant vous dire, n'était pas encore très au point. On s'était dit vaguement, on vendra ça sur la côte est des États-Unis, dans tous les flea markets de la côte, etc. Et en fait, pendant nos heures de voyage, on traversait vraiment d'état en état. On s'arrêtait dans plein de fermes. On tapait à la porte des fermiers qui étaient là pour leur expliquer qu'on cherchait des vieux meubles. Donc, ils nous ouvraient des espèces de granges qui n'avaient pas été ouvertes depuis 30 ans, avec ce qui était à nos yeux des trésors et sans doute des vieilles choses pour eux.
Donc, ouais, des déchets. Ouais.
Exactement. Et en fait, on a, pendant nos heures de traverser, ce que les miles américains sont loin. Donc, ouais, on a eu le temps de se parler, puis on n'était que tous les deux.
Et vous parlez de quoi ?
Et ben, on parlait en fait de qu'est-ce qu'on fait de tout ça, ce qu'on ramassait, mais des containers entiers, quoi. On partait, on avait des remorques derrière nous, et il suffisait, de temps en temps, on pouvait ne rien trouver pendant 4-5 jours, et de temps en temps, on tombait sur une mine d'or, donc on remplissait une remorque.
Et vous aviez quoi comme budget ? Vous étiez parti avec combien ?
On n'avait pas du tout. Rien ne nous coûtait cher, puisque tous les trucs qu'on trouvait, c'était, on achetait ça à des prix complètement dérisoires. Quoi. Le mec nous vendait
Une chaise. Tu les débarrassais, oui.
Oui, ils se débarrassaient. Ils étaient ravis qu'on fasse ça. Et puis, il y a beaucoup de choses aussi qu'on récupérait en pas très bon état, qu'on retapait, etc. Mais donc, on pouvait avoir une remorque remplie. On avait dépensé $300. Quoi.
Ah,
c'était
ouais,
rien.
La vache.
Donc... puis il y avait, on voyageait qu'en voiture, donc il y avait le prix de l'essence, on s'arrêtait dormir dans des petits motels, etc. Donc on était, c'était vraiment la grande liberté quand j'y repense aujourd'hui, l'insouciance. Et on avait surtout, et je pense que c'était le fait de notre jeune âge, on s'était pas du tout, on avait aucun stress de, on se lance dans quelque chose et on n'avait pas de business plan, etc. Mais on était en tout cas très intuitif dans ce qu'on voulait faire, on était très raccord sur ce qu'on aimait et ce qu'on voulait trouver. Et puis au fil de nos voyages, on s'est rendu compte que, moi je disais à Jonas qu'il fallait qu'on trouve une vieille chaise à bascule. Enfin, on avait trouvé des vieilles chaises à bascule, j'ai dit non mais ça cartonnerait en France. Et lui me disait non mais l'enfer, moi c'est un truc sur le perron de ma grand-mère.
Je peux plus le voir.
Et je lui disais mais je te jure qu'on ramène ça en France, ça cartonne. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, on en est venu en fait à faire de longs voyages qui duraient à peu près entre 4 et 6 mois pour qu'on ait assez de matériel. Et on stockait tout ça dans la maison du père de Jonas qui habite dans le Midwest. Donc il y a cette espèce de grande maison avec des terrains énormes américains, quoi.
Ouais.
Et donc on avait construit des tentes et on stockait tous les meubles là-bas.
Okay.
Le temps qu'on les retape. Et après on envoyait ça par container à Paris. Et en fait tout le concept avait été créé comme sur un carnet de voyage presque vivant. En fait c'est que nous, c'était tous les meubles qu'on avait récupérés dans toute la partie nord-est des États-Unis. Qui avait vraiment une empreinte esthétique. On retapait ça et on envoyait ça par container à Paris. Et en fait, on ouvrait une boutique éphémère en plein Paris pendant 6 semaines.
Où ça ?
On avait fait le premier rue du Verbois. On avait eu un endroit absolument incroyable. Une vieille boutique assez industrielle, mais qui faisait 300 mètres carrés. Enfin, c'était un volume assez improbable pour Paris. Et donc, on avait installé cette boutique. On avait l'impression que c'était une maison où les gens habitaient là depuis 20 ans, quoi. Et on avait tout mis, on avait tout, ça venait, on avait des vieux quilts, on avait des vieilles chaises hyper belles avec des patines canon, on faisait des ventes aux enchères pour récupérer des meubles de, tu sais, d'usine, etc. Enfin, c'était vraiment la folie de cette époque. Donc voilà, on a fait ça pendant pas mal de temps.
Et ça a cartonné, ça a marché. Et
ça a cartonné parce que...
Et Jonas, il continue sa carrière de mannequin en parallèle ?
Ouais, Jonas, il est toujours mannequin.
Et à l'époque aussi. Quand on l'appelait, il se déplaçait.
Il se déplaçait. Donc de temps en temps, je me retrouvais seule pendant quelques semaines au milieu des États-Unis. Mais en même temps, ça m'a vachement forgée. Et je me suis toujours sentie en fait hyper bien et à l'aise dans ce pays. Les gens ont toujours été hyper accueillants et tout. Mais moi, j'adore vraiment les États-Unis. Enfin, j'adore l'Amérique, quoi. Et les Américains aussi.
Pour une fois qu'on n'a pas du American bashing dans un podcast, c'est cool.
Ouais, non, parce que je trouve qu'ils sont hyper... je trouve qu'ils sont très accueillants et qu'il y a cette espèce d'énergie et de sens, de bon sens de vie en commun. Et la caissière du supermarché, elle est grosso modo toujours sympa. Ça n'existe pas, en fait, qu'elle ne dise pas bonjour. Elle va dire « Hey, Ronnie ». Et je trouve ça toujours trop sympa.
Ouais.
Et voilà, moi je les ai toujours trouvés hyper accueillants et donc voilà, j'aime l'Amérique.
T'aimes l'Amérique.
Et j'aime tous les États, parce qu'en plus je connais du coup bien le...
Donc tu les as tous fait. T'as fait de long en large.
Oui, j'ai pas fait l'Alaska,
ouais.
Qui était un peu loin et un peu trop sous la neige. Non, on a fait beaucoup d'États. On a fait tout ce qui est centre et est. On a à peu près parcouru du nord au sud. Et on a fait pas mal de l'ouest, mais on n'est pas allé tout ce qui est de la partie sud-ouest, on a un petit peu moins fait. Enfin, on a quand même beaucoup
voyagé. Et à cette époque, vous avez la conviction que ça va marcher, que ça va prendre
Mais aucun doute.
Aucun doute.
En fait, on est tous les deux hyper sûrs de... Déjà, on est tous les deux, on adore ce qu'on fait. Enfin, ça a vraiment été... C'est marrant, ce que je demandais toujours à Jonas, je lui dis, mais est-ce que c'est aussi dingue pour toi, étant américain et avoir vécu... enfin grandi dans le Midwest, est-ce que c'est aussi dingue pour toi en fait ce qu'on est en train de faire? Et en fait on s'en rendait compte tous les jours de cette espèce de folie que c'était de voyager tous les deux. On était évidemment fous amoureux, on travaillait ensemble, on avait aucun horaire, on bossait beaucoup hein, parce qu'on a vraiment
charbonné.
Ouais, moi j'étais genre bodybuildé, on démontait des fermes pour récupérer tout le bois pour fabriquer les meubles, enfin c'était vraiment du...
c'était un truc de ouf.
Et on avait vraiment pas de limite quoi.
Ouais, et vous répariez les trucs donc pendant un mois, deux mois après vous répariez
En fait on avait un atelier au début on était chez le père de Jonas dans le Midwest, après on a rapatrié tout à New York, donc on habitait à Manhattan et on avait un atelier dans le New Jersey dans un quartier hyper industriel. Et on avait notre atelier, on fabriquait les meubles, donc je suis devenue vraiment menuisière à force de...
Trop bien.
De travail, moi je m'occupais tout le travail du bois, donc on avait beaucoup de meubles où c'était des chutes de bois avec des très belles patines, et en fait on faisait, je sais pas, un espèce de carrelage en bois pour tu vois, le dessus de la table, et on faisait des salons, on avait commencé à faire quelques salons de maisons et objets, où on faisait des protos de table, et après les gens pouvaient venir commander en disant bah, j'aime bien ce motif là, est-ce que je peux l'avoir dans telle patine, et nous quand on repartait aux États-Unis on faisait le meuble pour la personne quoi. Donc non, c'est pour ça que je dis que ça a été un gros changement de vie, c'est que d'une, je ne me pensais pas être... Enfin si, j'ai toujours été manuelle, mais j'avais toujours laissé le côté hyper artistique à ma sœur, qui est clairement a toujours exprimé ça de manière très naturelle, spontanée, puis elle transpire ça, quoi. Elle dessine hyper bien depuis qu'elle est petite, avant de prendre des cours de dessin et de faire des écoles d'art. D'ailleurs, elle se faisait dégommer en cours avec les profs qui lui disaient qu'elle finirait coiffeuse ou je sais pas quoi, parce qu'elle était en train de dessiner sur ses cahiers. Enfin, c'est quand même une autre époque, quoi. Parce que c'était pas vraiment mis en valeur. Et donc voilà, puis elle a toujours eu la passion des matières, etc. Et moi, je l'ai toujours eu, mais très différemment. Moi, j'ai toujours été très manuelle, j'ai toujours bricolé. Mais je dessine pas hyper bien. Enfin non, je dessine même très mal, en fait, soyons honnêtes. Comme je sais qu'Alix va m'écouter, je suis obligée de... Je peux pas dire que je dessine à peu près bien. Non, je dessine vraiment mal et j'écris mal, etc. Donc ouais. J'ai pas du tout ce truc-là. Et je pense qu'en grandissant, je me suis mis ça un petit peu de côté, que c'était la place d'Alix. Et moi, je me suis cherchée autrement, mais sans aucune souffrance, parce que j'étais très bien dans mes pompes et que j'ai aimé mes études, j'ai aimé mes premiers boulots et tout. Et puis, je crois qu'à un moment, il y a la petite personne au fond de moi qui a dit « Ah, mais peut-être qu'en fait, je peux aspirer à autre chose, quoi. » Et en fait, je n'ai jamais eu, et je le vois, parce que je l'ai pareil avec les céramiques aujourd'hui, c'est que j'ai jamais eu le complexe de j'ai pas fait d'études ou je connais pas le bois et j'ai pas étudié le bois. Pour moi, parce qu'on a grandi aussi avec des parents qui nous ont poussé de... En fait, tout est possible et chaque jour, si t'es pas content avec ta vie ou heureuse avec ta vie, tu peux la changer, il n'en tient qu'à toi. Ce qui paraît très simple sur le papier, parce qu'il y a toujours des complications, etc. Mais en vrai, oui.
Mais vous le disiez comment ? Au repas, le dîner, le soir
Non, je pense que mes deux parents sont très comme ça et je pense que ils nous ont toujours dit, en fait, ils détestent qu'on se plaigne. Ils nous disent, en fait, si t'es pas contente, si t'es pas heureuse avec ton mec, si ta copine c'est pas une bonne copine, etc. En fait,
change-en.
Oui, le problème vient de toi. C'est toi qui t'entêtes en fait à aller vers les gens comme ça, alors que si ça marche pas, en fait, mets-toi un coup de pied aux fesses, lâche le truc et mets-toi à autre chose, tourne la page, etc. Et puis, ils nous ont toujours dit aussi qu'à force de travail, on arrivait à tout dans la vie. Donc ça, je pense que c'est un truc qui est très ancré en nous. Et qu'en fait, on a eu clairement la chance, et je sais qu'on est très privilégiés pour ça, d'avoir des parents qui nous ont jamais mis de barrière, en fait. Moi, je me souviens de mon père qui nous a toujours dit les filles, si vous voulez déplacer des montagnes, allez-y, quoi. Prenez de la place. Donc voilà, donc en fait, on a grandi quand même avec quelque chose où rien n'était impossible. Quand j'ai quitté TBWA pour dire à mes parents que j'allais vagabonder sur les routes d'Amérique avec mon...
Ton boyfriend.
Mon boyfriend, en plus, on n'était même pas mariés.
Ils vous ont dit go ?
Ah bah, ils nous ont dit go, parce que je pense que ça... En fait, ça répondait aussi quelque part à... Ça nourrissait une jeunesse en eux aussi, de se dire, en fait, si tu fais pas ça une fois dans ta vie, à 22, 23 ou 24 ans...
Oui,
Tu le feras jamais, et en fait, je pense qu'ils ont toujours... Ils sont très dans leur éducation. Le bonheur est quelque chose de très important. Donc, ce n'est pas un bonheur, si tu veux, qui est absolu. Mais c'est de rechercher dans les petites choses du quotidien des moments de bonheur. Et donc, ils nous ont toujours dit, c'est des instants. C'est quand tu dis, je vais prendre un café, et c'est juste la sensation de boire ton café au soleil un matin de printemps. Ben, en fait, juste de prendre 5 minutes pour s'arrêter là-dessus.
C'est les fameux petits kiffs du quotidien.
Exactement. Mais ça, encore faut-il réussir à se faire remonter pour qu'on se dise, tu vois. Donc, c'est tous ces moments-là. Et donc, je pense qu'ils... Enfin, et puis je pense que j'étais très persuasif aussi quand je lui ai dit que je quittais TBWA et qu'il a senti que c'était ce qu'on voulait faire et que et voilà, il n'y avait pas la crainte de glander parce qu'il sait qu'on est des très, enfin qu'on bosse beaucoup. Et voilà, et en fait, on n'a pas arrêté quoi. Moi, j'étais à la fin, je fabriquais des armoires plus grandes que moi. Donc on apprend tout quoi. Et ouais. Je travaillais vraiment dans l'atelier. On était
couvert de peinture, de suie,
couvert
de machin.
Peinture. J'ai encore mes vieilles salopettes qu'on utilisait, qui étaient non. Donc ça a été vraiment hyper formateur.
Trop bien.
Donc il y a eu cette époque de 3-7, et puis après qu'on a vraiment adoré, qui a très bien marché. On avait eu, tu me demandais tout à l'heure, on avait eu beaucoup de bruit autour de ça. Donc c'était avant Facebook et Instagram.
Ouais, vous aviez eu vachement de presse et tout, non, j'imagine, ouais. Parce que c'était tellement cool.
En fait, il y avait
cool
le bureau de presse.
Projet.
Ouais. Il y avait le bureau de presse d'Alix, qui était Catherine Mirand à l'époque.
Elle avait James Stone à l'époque. Ouais. Hein. Parce que là, on parle de quelle année ?
Eh bien, nous, on a commencé en 2009. D'accord. Et Alix, elle a monté M-Stone en 2007, je crois.
D'accord, ok.
Donc M-Stone avait commencé et donc elle avait son bureau de presse, les Mirand, comme on dit, que je remercie toujours de. Et qui nous avait fait une presse de dingue avant qu'on arrive. Donc le jour de l'ouverture du premier pop-up, on avait une file d'attente devant le pop-up.
Fabuleux. C'est voilà. Une autre époque, ça. Hein.
C'était une autre époque, puis c'était en plus avant les Instagram, etc. Ouais. Donc c'était vraiment.
T'avais 2-3 articles dans la presse et c'était bon, quoi. Ouais. Tu remplissais ton événement.
Exactement. Puis on avait quand même fait un beau dossier presse, pardon. On avait vraiment expliqué la vibe dans laquelle on était. On était quand même dans tout un truc de recyclage, parce que c'était une des règles d'or de 3-7 US à l'époque.
Rien de nouveau.
Qui était on réutilise tout, donc on chinait plein de, tu sais, de vieilles chemises américaines, tu sais, en flanelle, là où je sais pas comment on appelle ça.
Trop beau.
Et en fait, celles qui étaient pas hyper belles ou qui étaient un petit peu trop défoncées, on récupérait les boutons, on s'en servait pour faire les boutonnières de nos sacs de grains qu'on convertissait en coussins. Donc bref, il y avait tout un côté un petit peu vertueux comme ça qu'on a fait de manière assez naturelle parce que je crois qu'aussi on était fauchés, donc il fallait qu'on trouve des solutions. Donc voilà, on a passé 6 ans qui étaient vraiment incroyables et puis c'est très enrichissant.
Ça a duré 6 ans ce truc-là. Ouais. Ah ouais, c'était hyper long quand même. En 6 ans, vous faites des allers-retours et vous faites des pop-ups.
On fait des allers-retours et voilà, et on voulait vraiment garder la liberté de pas avoir de. Parce qu'on nous avait dit plusieurs fois, il faut que vous ayez une boutique et tout, mais en fait, très rapidement, on s'est dit, mais en fait, si on a une boutique, il faut en permanence la réapprévisionner. C'est compliqué en plus, les histoires de conteneurs.
Il faut quelqu'un, etc. Machin.
Il faut quelqu'un et tout d'un coup, on rentrait dans un moule dans lequel on voulait pas rentrer.
Ou peut-être coupe de ta liberté.
Exactement. Et donc voilà, donc on a fait ça. Ensuite, je suis tombée enceinte de notre fille. Et bah, là, clairement, ça a changé un peu la donne parce que la liberté est passée un peu. On n'en avait plus beaucoup. Et on a quand même continué un an, mais on partait avec ma fille en porte-bébé. On allait chiner les meubles. Enfin, c'est quand même, on est dans la poussière, on soulève des trucs, etc.
C'était
donc
pas l'idéal,
c'était fatigant. Et puis, on avait aussi, du coup, la vie avait un peu changé. On avait envie de. C'était très fatigant et très physique comme métier, ce qu'on a fait. Et du coup, je crois qu'on en a eu un petit peu tous les deux ras-le-bol. Et donc, ça a été très rapide.
Vous l'avez dit comment ? Vous vous rappelez à ce moment ?
Oui, alors Jonas m'a dit qu'il en avait marre. Et moi, j'étais pas prête à l'époque. Donc, j'avais une petite douleur quand il m'a dit ça. J'étais.
Ah non.
Et en fait, je lui ai dit. En fait, je le savais au fond de moi qu'on allait arrêter, que c'était de toute façon plus viable. On avait perdu le côté hyper relax de ce qu'on faisait, etc. Enfin, hyper relax en même temps, on travaillait vraiment, mais. Et en fait, je lui ai dit, laisse-moi juste le temps de digérer en fait le truc. Et ça m'a pris 6 mois. Donc moi, j'ai continué un petit peu toute seule sur les commandes qu'on avait, etc. Et puis un matin, je me suis réveillée et je sentais que ça y est, j'avais tourné la page dans ma tête.
C'est fait le
deuil.
Ouais.
Voilà. Et donc j'ai dit à Jonas, ça y est, je suis prête. La semaine d'après, on a fait des ventes aux enchères de tous nos meubles. C'était hyper drôle. On a vendu, parce qu'on avait évidemment des storages à droite, à gauche, à New York, etc. Et on a tout vendu en l'espace de 10 jours. Puis il y avait un côté évidemment un peu émotionnel parce qu'il y avait plein de pièces qu'on retrouvait, qu'on avait un petit peu oubliées dans nos storages et tout. Mais voilà, j'ai tourné la page sans jamais regarder derrière.
T'as gardé des meubles de l'époque ?
On en a encore quelques-uns, très peu. On a déjà les meubles qui sont chez nos amis qui nous avaient commandés, etc.
Ouais,
donc
ça,
on
ouais.
a ça, mais nous on s'en est un peu débarrassé. Parce qu'en fait, moi j'ai été hyper lassée de tout ça, c'était très coloré.
Ouais.
Et en fait, quand on est arrivé à Paris, j'ai dit à Jonas, je veux du blanc laqué partout, je veux du moderne, etc.
Ouais.
Donc on a vraiment tourné la page, quoi. Mais et donc voilà, donc pour en arriver rapidement à la céramique, parce que ça s'est passé vraiment, je crois qu'en juin on a fait les ventes aux enchères, en septembre on faisait un salon de maisons et objets pour les assiettes, qui était prévu au début pour présenter les meubles, sauf que comme on arrêtait, il fallait bien trouver quelque chose pour remplacer. Et Jonas m'a dit, tu devrais faire tes assiettes, sous-entendu les 4 petites bouses que tu fais quand on rentre à Paris et que tu fais tes assiettes.
Parce que tu faisais déjà des assiettes à l'époque.
je faisais comme je vivais pas à Paris, je faisais des assiettes dans la cuisine de mes parents qui avaient envie de me tuer parce que c'est quand même poussiéreux, c'est une petite industrie quand même, ouais. Ce truc là. Et je savais rien, moi je savais faire étaler la pâte au rouleau à pâtisserie, je mettais ça dans une assiette existante pour avoir une forme un petit peu, tu vois, galbée. Et ensuite j'allais amener ça dans un atelier dans le 14e, et la nana qui me les cuisait, je les récupérais pour les dessiner, elle me faisait les mailles et tout, donc moi je ne connaissais pas du
tout
la partie.
Mais t'avais déjà ce concept de je dessine sur les assiettes.
Ouais, moi j'ai toujours, oui c'est marrant parce qu'il y a plein de gens qui me disent mais pourquoi est-ce que vous avez fait du fait main, vous n'avez pas fait de l'industriel, vous n'avez pas trouvé un atelier qui vous a fabriqué, je sais pas, moi j'ai toujours le truc de faire moi-même, qui parfois franchement je pourrais arrêter de faire ça. Mais je pense que j'ai ça où j'ai besoin de faire moi et de... Donc non, je faisais les assiettes toute seule. Sans connaître vraiment la partie technique, etc. Et donc j'avais rencontré cette nana qui s'appelle Claire Lecreux, qui a un très joli atelier, elle est maintenant dans le sud de la France. Et c'est vraiment cette fille-là qui... Enfin, c'est... J'ai passé du temps avec elle, et donc elle m'a appris un petit peu à émailler, mais j'avais aucune technique, je savais pas les courbes de cuisson, faire marcher les fours, etc. Et en fait, ça s'est passé, c'était 6 ans après, 8 ans après, où j'ai commencé à faire les assiettes moi-même pour le salon de maison et objets. Donc en fait, j'étais pas du tout prédestinée à faire des assiettes, j'y ai jamais pensé. Et c'est vraiment juste Jonas qui m'a dit, fais les assiettes, comme ça tu remplis le stand de tes assiettes. On avait calculé qu'il fallait en vendre genre 300 pour se rembourser les frais du stand. Et on repartait le 18 septembre à New York.
Pour continuer notre vie.
Continuer notre vie, on savait pas exactement ce qu'on allait faire, mais on n'était pas non plus... j'étais pas inquiète, je suis en période entre deux trucs.
Ouais, t'allais rebondir d'une manière ou d'une autre.
Ouais, ça m'a jamais trop inquiété. Ça. Puis je trouve que c'est justement un peu le problème qu'il y a dans nos générations, c'est qu'on a l'habitude de toujours... comme si en fait de toujours courir après la vague était un signe de positif. Dans
de réussite.
Ouais, ouais, de réussite, de je suis surbookée, etc.
Ne rien faire, c'est bien aussi.
Mais alors qu'en fait, il n'y a qu'en faisant rien, parce que tout d'un coup, l'imaginaire se développe et c'est là où on trouve en fait les projets, où on réfléchit bien. La transition entre TBWA et les meubles, quand je disais que je l'ai un petit peu romancé, c'est qu'en vrai, j'ai eu quand même pratiquement 6 mois. De zone hyper inconfortable, je savais qu'il fallait que j'arrête, mais j'étais aussi tenue parce que j'avais mon visa de travail, donc je pouvais pas arrêter de travailler de peur d'être éjectée des États-Unis. Et en fait, j'ai passé 6 mois pratiquement entre deux eaux, en fait. Et c'est 6 mois où je devais sans doute à l'époque me stresser en me disant ah, il faut que je trouve quelque chose, que les gens te mettent la pression, mais tu fais rien, mais.
Et c'est en quoi fait, la suite, ouais.
Bah en fait, si, c'est que ça m'a permis en fait de réfléchir à vraiment ce que je voulais faire et de prendre le temps en fait de réfléchir à ça, parce que sinon, on ne sait pas, qu'on a tellement tout le temps dans l'urgence que est-ce que je fais ça parce que j'ai besoin de le faire, est-ce que je le fais bien, est-ce que
je le fais pour moi ou pour les autres,
exactement. Ouais. Donc non, je me suis pas du tout laissé le temps, parce que donc on a enchaîné les meubles puis ensuite la petite production qu'on a faite pour le maison et objets. Et en fait, donc on a présenté le stand, les pièces en septembre, mais qui était vraiment sans suite dans les idées. C'était juste, on vend les 300 pièces et merci, au revoir, on s'en va. Et en fait, on a eu un espèce d'engouement sur le stand, qui était très joli, je dois dire. Parce que, déjà, on l'avait fabriqué nous-mêmes, évidemment. On avait fait du béton ciré partout, c'était pas encore trop la mode béton ciré. Donc c'était un stand, c'était très brut, il y avait toutes les assiettes dans les tons de beige, c'était assez joli. Et en fait, on a eu un truc incroyable. On a eu genre les plus meilleures boutiques qui sont venues nous voir et qui nous ont acheté. On a eu le Bon Marché qui est venu nous voir dès le deuxième jour et qui nous a acheté en ferme, qui nous a demandé de faire une série limitée pour Noël avec qui voulait nous réserver un stand dans le éphémère dans le Bon Marché, etc. Et donc j'étais en panique parce que évidemment j'avais l'air très pro en face des gens et derrière j'étais là mais je n'ai pas d'atelier, je sais pas comment fabriquer les trucs et par contre je disais oui à tout le monde avec évidemment des dates de fabrication délirantes.
Mais tu te projetais déjà dans des trucs comme ça?
Pas du tout.
Ouais, là t'étais en mode il faut qu'on remplisse, il faut qu'on récupère le pognon et basta cosy quoi.
Ouais, et en même temps je pense que
t'en as vendu combien? T'en as vendu 5000?
On en a vendu 3000.
3000.
Ouais.
Ah ouais.
Et donc j'ai dit très simplement à Jonas j'ai dit très simplement à Jonas en sortant de stand de maison objet, parce que déjà j'avais donc appelé mes proches, mes parents, etc. J'ai dit papa, mais panique en fait, comment est-ce que je produis ça? Il m'avait dit chaque chose en son temps, déjà prends les commandes et après tu trouveras des solutions. Donc j'ai fait ok, un bon petit soldat, je prends les commandes et voilà. Et en fait donc je suis sortie du salon de maison et objet très touchée en fait de l'engouement qu'il y avait eu, parce qu'on avait vraiment eu donc le ABC Store à New York, le BHV, le Bon Marché, les galeries, On avait eu Liberty à Londres. On a vraiment eu des boutiques dingues. Quoi. Et puis, comme moi, je connaissais pas les boutiques, je demandais évidemment à Alix, qui avait fait pas mal de wholesale, « Tu connais telle boutique ?» Elle me dit « Non, mais Caro, c'est dingue, cette boutique, faut que tu y ailles, etc. » Et donc, en sortant du salon, j'ai dit à Jonas, en fait, c'est soit je prends les commandes, mais du coup, on s'installe à Paris, il faut que je trouve un atelier et que je lance tout ça. Soit il est encore temps de ne valider aucune commande, eux ça va pas leur changer la vie, et du coup on repart aux États-Unis, mais il faut prendre une décision dans les 24 heures quoi. Et donc on a décidé de rester. Et
comment vous avez pris votre décision?
Ah bah c'est toujours très simple, nous c'est voilà ce qu'il y a là, il y a une opportunité, en même temps New York ça fait 12 ans qu'on y est, c'est une ville qui coûte 4 bras, puis là on avait déjà notre fille qui avait du coup presque 2 ans je crois. Et il y avait Alix, son mari et sa fille qui étaient rentrés 9 mois plus tôt à Paris, donc c'est quand même toujours un point important chez nous. Et donc on s'est dit ok, on reste. Et en fait moi j'ai pas, et je pense que Jonas non plus, pour moi rien n'est irréversible, c'est-à-dire que pour moi ça ne sont que des expériences, donc si jamais Paris ça va pas, que le truc marche pas, etc., on bougera, on changera, il n'y a pas de rien qui est définitif, donc c'est pour ça que je pense que j'ai jamais un côté dramatique sur les décisions, parce que pour moi je peux aller dans une direction si je me rends compte que c'est pas la bonne. Encore une fois, il ne tient qu'à moi que de changer et réajuster, etc., donc j'ai pas de stress par rapport à ses décisions. Si jamais demain pour son boulot Jonas me dit il faut qu'on aille vivre à Hong Kong, et ça va demander un petit peu d'organisation, mais je me dis en fait c'est une expérience de vie, on peut y aller 1 an, 2 ans, si ça nous plaît on peut en rester, enfin il n'y a rien de définitif quoi. Donc on décide de rester à Paris, et donc là je pars dans une chasse absolument un petit peu stressante je dois dire, de trouver un atelier. Moi ça fait 12 ans, enfin en fait j'avais jamais vraiment travaillé à Paris, ça faisait 12 ans que j'étais pas rentrée. Je savais pas où trouver des gens pour travailler, je savais pas où trouver un atelier, je connaissais plus Paris parce que moi je connais le Paris que j'ai laissé il y a 12 ans, enfin bref. Donc voilà, ça a été un peu sportif, et puis finalement j'ai rencontré le soir même... en promenant mon chien, un mec au café du bas, où je crois que mon chien a fait pipi sur son vélo, ou une histoire comme ça. Au final, on s'est parlé pendant une demi-heure, et on s'est un peu rapidement raconté nos vies. Il me dit, mais donc, toi, tu fais quoi? Et je lui dis, je suis un peu stressée, il faut que je trouve un atelier pour faire de la céramique, je lui explique un peu l'histoire. Et le mec me dit, tu sais que j'ai un copain qui a un atelier à Villejuif, c'est un espèce d'énorme hangar d'atelier partagé, etc. Si tu veux, je te file le contact et tout. Je lui dis, écoute, grave. Donc j'appelle le mec en question, qui me renvoie sur le proprio. Le lendemain, je visitais le hangar. Et le lendemain soir, on emménageait l'atelier avec rien. On avait pris une planche de bois avec des tréteaux pour faire une table. Pour les trucs de séchage, on avait préparé des petites planches de bois avec... on mettait des petits tasseaux coupés tout de tailles différentes. Donc c'était l'enfer, ça se pétait la gueule tout le temps. Et donc j'ai commencé les assiettes toute seule. Et puis je me suis dit, en fait, impossible de produire ça. Donc il a fallu que je m'entoure. Et là, pareil, je me suis jamais dit qu'il fallait que je m'entoure de céramistes, puisque moi, il fallait que je mette au point ma propre technique, puisque j'avais moi-même jamais pris de cours de céramique. Et du coup, ça me posait aucun problème d'avoir des nanas qui n'aient jamais fait de céramique de leur vie, puisque je m'étais dit, on va apprendre tout ensemble, en fait. Alors, par contre, pour la petite histoire, parce que je sais que ça fait toujours sourire quand je dis ça, mais ne faites pas ça, parce que c'est vraiment galère.
C'est fatigant.
Ouais, c'est fatigant, ouais, c'était... et donc voilà, on a eu les premières filles de l'atelier que j'ai pris sur Babysitter, c'était un site sur Facebook pour des nounous, en disant qu'on cherchait des nanas pour faire de l'illustration sur de la des assiettes, et puis des filles qui aiment bien faire de la pâte, enfin c'était du grand délire. Et je ne sais pas comment on a réussi à produire les assiettes des commandes, on a réussi à faire le premier pop-up éphémère du bon marché, ça j'en reviens toujours pas de comment ça s'est passé, mais on y est arrivé. Et après, ça a été 4 longues années de beaucoup de recherches, beaucoup de fatigue, parce qu'on ne se rend pas compte ce que c'est l'artisanat. Et puis de gérer un atelier de fabrication, en fait, on n'est pas formé pour ça. Il y a beaucoup de temps mort, etc. Et puis de gérer aussi tous les gens qui travaillent dans l'atelier, les roulements. Donc ça a été beaucoup à gérer. Et en fait, ça m'a pris concrètement 4 ans à aujourd'hui, arriver jusqu'aujourd'hui pour avoir une production carrée. Savoir exactement ce qu'on fait, de savoir... parce qu'il y a beaucoup de pertes en céramique, donc on a réussi à optimiser les choses, etc. Mais on est vraiment passé par les montagnes russes. On a eu, je pense que ceux qui nous suivent sur Instagram ont été très happée par notre histoire de carrément, on a eu des problèmes de terre, on a dû fermer l'atelier, on a dû fermer la production, et on a fait un an de recherche pour remettre la production d'équerre. Donc voilà, donc ça a été vraiment très tumultueux. Mais bizarrement, je me suis jamais dit qu'il fallait que j'arrête. C'est que j'étais sûre. En fait, comme on avait un produit qui se vendait, puisque le problème n'a jamais été la vente pour nous. Moi, ça a toujours été la production. Donc, on n'a jamais réussi à avoir assez de stock pour répondre aux demandes, ce qui crée beaucoup de tension. C'est toujours pareil, les boîtes en développement, de suivre
la croissance.
Ouais. La croissance, c'est hyper, hyper compliqué. Et surtout quand on travaille avec un produit qui est aussi... c'est un produit qui est très vivant, donc ça bouge tout le temps suivant l'humidité, la température qu'il fait dehors. On a des productions qui changent légèrement, etc. Mais je ne me suis jamais dit qu'on allait baisser les bras, parce que je savais qu'on allait y arriver. Mais ça a été vraiment la sueur de mon front, quoi.
Trop bien. Peut-être pour que ça soit très clair, pour comprendre vraiment l'évolution de 3-7 Paris, parce que maintenant ça s'appelle Paris, hein,
c'est
US, la partie américaine, et maintenant c'est Paris. Quels sont les différents milestones entre le moment où tu fais salon et objet et maison et objet, pardon, et aujourd'hui avec ta boutique, et ensuite on va diguer un petit peu sur ce que c'est que 3-7, ta plateforme de marque, ta la prod, tous ces sujets-là d'acquisition aussi. Reviens peut-être rapidement sur les milestones.
Alors 3-7 Paris, on l'a créé tout début 2017. On était au début sur un business model, va savoir pourquoi, uniquement de wholesale. Donc on faisait les salons de maison et objets deux fois par an. Donc j'étais très pragmatique à l'époque et je m'étais dit qu'en faisant les salons de maison et objets deux fois par an, on allait avoir que deux pushes de production par an, puisque c'était notre seul canal de vente. J'avais pas du tout pris en compte tous les aléas de la production, parce qu'en fait on avait des rallonges de production. Donc on a fait du wholesale.
C'est quoi les rallonges de production?
C'est qu'en fait, ce qu'on pense sortir en 6 semaines, tout d'un coup, il y a 3 semaines de pluie dehors, donc nous, les pièces ne sèchent pas.
Ah ouais, c'est pire que les boulangers, quoi. Là, c'est
l'enfer.
Ah non,
mais c'est franchement le... Après, aujourd'hui, on a complètement appris à gérer ça. Puis on a de l'avance sur la production, donc on n'a plus les problèmes de météo, mais... Ouais. C'est marrant parce que j'ai jamais vraiment regardé la météo et depuis 4 ans, tu me dis quel temps il faisait l'hiver, machin. En fait, on était tellement obsédés que je sais le temps qu'il faisait à chaque fois, tellement on regardait ça toute la journée, quoi. Dès qu'il y a de l'humidité, il n'y a plus rien qui sèche.
Là, en ce moment, par exemple, c'est l'enfer.
En fait, on le voit plus trop maintenant parce qu'on a tellement d'avance en production sur les pièces qui sont faites qu'en fait, on produit... on continue tout le temps et en fait on s'en fout un peu maintenant que la pièce prenne 3 jours ou 3 semaines à sécher parce qu'on a déjà des stocks qui sont cuits, donc on a enfin passé ce cap-là.
D'accord.
Il fallait au bout de 4 ans.
Ouais.
Donc voilà, on a fait du wholesale pendant, je dirais, 3 saisons. On a ouvert 140 points de vente qui étaient évidemment très valorisants sur le papier, mais qui en fait a été un enfer à gérer.
Pourquoi?
Parce que ça nous obligeait à avoir des très grosses productions qu'on ne gérait pas encore. Donc moi, on s'est retrouvés à 12 dans l'atelier de temps en temps, avec beaucoup de temps mort en céramique. Donc plein de gens où, en fait, pendant que ça sèche, la nana ne sait pas quoi faire. On n'avait pas encore réussi à optimiser tout ça. Et puis tout d'un coup, c'est de gérer une équipe de 12 personnes qui est quand même compliquée. Donc ça, c'est toujours la petite régalade.
Ouais.
Donc il y a eu ça et puis il y avait toute la boîte à structurer, il y avait moi j'adore tout ce qui est les tableaux Excel, les chiffres, etc. Donc j'avais fait tous mes prix, etc., mais que j'étais en permanence obligée de réajuster parce que tout d'un coup je me rendais compte que l'assiette que je pensais mettre 30 minutes à dessiner, finalement la fille qui l'a fait met 1 heure à la dessiner, donc ça te prend, c'est juste le double de temps pour donc ça change quand même, ça fait
changer
tes pieds,
ouais.
Tes prix, pardon. Il y avait tous les trucs de référencement que les boutiques te demandent parce qu'ils sont obligés d'avoir. Donc il fallait qu'on organise tout ça. Et puis j'étais toute seule au début. Après, j'ai eu une fille que j'adore, Charlotte, qui est venue m'aider à structurer tout ça. Et puis il y a tout le côté client, quoi, qu'il faut les mails, les fournisseurs, les envois, etc. Donc ça a été hyper sportif. Il fallait créer les packagings. Nous, on avait quand même un gros sujet parce que comme on expédiait 100% de la vaisselle, il fallait qu'on ait un packaging pour éviter que tout arrive pété.
Bah ouais.
Mais on a passé des mois au-dessus de la table de l'atelier à jeter les boîtes de vaisselle par terre jusqu'à ce que ça ne se casse plus.
Enfer.
Parce que concrètement, c'est ce qui se passe dans les camions d'expédition. Ils balancent les cartons comme ça. Et on a passé, enfin, ça nous a pris des mois à trouver le bon packaging. Les premières commandes qu'on envoyait, il y avait eu vachement de cases. Donc après, C'est un effet boule de neige surtout parce que les clients sont... Enfin bon, ça a été chaud. Et donc voilà, tout prend du temps et t'as beau te dire que... En fait, il faut accepter qu'une marque, ça prend du temps à construire, surtout ces petits détails-là. Parce que je pense que les gens d'extérieur ne se rendent pas compte tous les petits détails pour arriver en fait à un produit qui est livré chez eux. Tout ce que ça engendre en fait, il faut penser à tout et puis on dit toujours le diable se cache dans les détails, mais c'est que t'as beau penser à plein de choses, il y aura toujours le truc auquel t'as pas pensé qui va te foutre ta production en l'air et puis il faut que tu gères le problème quand il est là quoi. Donc j'ai été très fatiguée, en plus de ça j'étais enceinte de mon fils, donc ça c'est les joies de l'entrepreneuriat. J'ai travaillé comme une brute à l'atelier parce que j'étais toujours beaucoup dans la fabrication, enceinte jusqu'au dernier jour. Je suis partie accoucher avec mon ordinateur sous le bras parce que t'as l'impression qu'il faut répondre aux mails dans la seconde. Et je suis repartie travailler 2 jours après l'accouchement. J'allaitais, on a refait un salon de maison objet. Je dormais 2 heures par nuit parce que j'avais un nouveau-né et que voilà. Donc ça a été 1 an et demi hyper fatigant. Et puis je parle évidemment à Alix qui était très agacée de mon état de fatigue, qui me dit en fait tu peux pas continuer comme ça. Et dans la conversation on était tous autour de la table en disant faut que je revoie le business model, c'est pas possible.
Ça c'est en quelle année?
On doit être en 2018.
Donc c'est au bout de...
D'un an et demi, deux ans.
Je crois
qu'on avait fait 3 salons de maison et objets, okay. On sortait du 3e.
Parce qu'elle, en parallèle, elle avait déjà switché de modèle.
Non, elle était toujours en wholesale, mais elle était dans le creux de la vague aussi, parce qu'elle était représentée par plein d'agents. Donc elle avait un agent aux États-Unis, aux 4 coins du monde.
Ouais, donc une dépendance à mort des autres.
Ouais,
quoi.
Et puis ce qui est marrant, c'est que c'était en fait un ancien business model, quoi. C'est que les marques avant, à cette époque-là, et ça paraît con, parce qu'aujourd'hui on est tellement avec les sites internet et nos Instagram, mais en fait, il y a encore...
Il y
a 5-6 ans, t'avais pas, tu vois, les sites internet, ils s'étaient déjà développés, mais si tu veux...
C'était beaucoup plus lourd, t'avais pas les... Je pense pas que t'avais des trucs tout clés en main, genre Shopify, etc. Aujourd'hui, c'est très simple, en fait, c'est même évident de le faire comme ça.
Il fallait que tu étais un codeur pour te faire ton site, dès que t'avais un changement
c'était
à faire.
C'était très lourd,
ouais.
Et ça coûtait beaucoup d'argent.
Et puis on était encore en sortie de ce business model, d'avoir des revendeurs, etc., qui nous, en fait, nous a vraiment aidés, parce que le... Je dépeins qu'un tableau très noir de ce wholesale. Ça nous a vraiment, en tout cas, donné de la visibilité.
On les embrasse quand même, s'ils nous écoutent.
Non, mais c'est vrai que c'est un business model qui n'est pas viable. En tout cas, pour l'artisanat, c'est impossible. Mais ça nous a donné une énorme visibilité. En fait, la nana qui va au Bon Marché à Paris, quand elle est à New York, elle va au ABC Store. Et je sais que les gens pensaient qu'on était une énorme structure derrière, et parce qu'ils nous voyaient dans les plus grands magasins dans les 4 coins du monde. Donc, ils pensaient qu'on était vachement développé et tout.
Tu penses que t'en bénéficies encore aujourd'hui?
Je sais que c'est hyper marrant parce que je trouve, j'en parlais la dernière fois, que la campagne du Bon Marché, vue au Bon Marché, est tellement bien faite parce que dès qu'on a des clients qui rentrent dans la boutique, je vous connais, je vous ai vu au Bon Marché.
Incroyable.
C'est genre un tampon de certification, genre si t'es au Bon Marché, c'est bon, tu peux y aller, t'es une marque cool, on t'achète quoi. Donc non, ça nous a vraiment beaucoup aidé. Je le dis d'ailleurs toujours aux acheteuses du Bon Marché que j'adore, qui sont tellement sympas et qu'en fait qui me suivent depuis 5 ans pratiquement. Et à chaque fois je leur dis, parce que là elles sont revenues nous voir, on fait un pop-up pour Noël dans le Bon Marché où elles nous ont demandé de recréer un atelier de fabrication pour vraiment avoir toute l'expérience Re7 avec l'artisanat, etc. Et donc on s'est marré la dernière fois parce que je leur dis, mais dire qu'il y a 4 ans vous êtes venus me voir, vous m'avez commandé, vous m'avez fait faire un pop-up store alors que je ne savais même pas faire marcher un four, et donc elles se marrent et je leur dis en fait je vous suis éternellement reconnaissante parce que je sais que le départ
c'est en grande partie grâce à eux.
Complètement. Donc bref, on a arrêté. Donc on a donc le wholesale, donc grosse fatigue, etc. Et en fait, j'ai dit en disant, c'est un business model qui s'adapte pas à nous. Ça marche peut-être quand tu fais fabriquer ailleurs, mais nous, c'est de l'artisanat. Et en plus, quand on fait de l'artisanat à Paris, c'est pas comme si on avait des marges délirantes, quoi. On n'est pas surtout qu'on a vraiment nous des temps de dessin qui sont très longs. La fabrication encore peut être assez rapide et puis elle est presque, on l'a tellement, elle est tellement au carré aujourd'hui qu'on sort beaucoup de pièces en fabrication. mais on a un temps de dessin qui n'est pas compressible. Donc le volume, peu importe le volume, l'assiette qui met 45 minutes à dessiner, elle prendra toujours 45
elle
minutes.
Elle ne prendra pas 2 minutes
exactement.
Quand on fait 10 000.
Donc
à cette époque-là, parce que tu, juste pour revenir au moment où Alix te dit ton état de fatigue, là, c'est pas possible.
Moi je suis très flexible. Je suis très flex. Dans le sens où je m'entête pas en fait.
Ouais.
Je sais que j'étais fatiguée, que j'étais épuisée et puis énervée de tout ce management qui quand même prend beaucoup d'énergie, en plus de tout ce qu'il y avait à gérer. Et puis j'étais pas prête de toute façon pour ça. Très rapidement, ça a pris 3 jours. On en a parlé pendant les 3 jours. Il faut que je développe mon site internet, il faut que j'arrête le wholesale. Donc là, c'est le dernier salon que je fais. Ok, j'en fais plus très bien. Le site internet, je le développe, donc il faut que je fasse des photos. Mais je peux être très robot. Hein. Photo pack shot, ok, le lendemain dans ma to-do, il faut que tu trouves quelqu'un qui te fasse tes pack shots, ton machin, ton truc, etc. Et du coup, on a arrêté le wholesale, on a livré les dernières commandes et on a fait le site internet. Donc on a eu pratiquement 8 mois sans vente. Ça m'a permis aussi de faire du tri dans mon équipe, c'est-à-dire que j'avais gardé que. Tout d'un coup, je suis passée d'une équipe de 12 à une équipe de 5, le bonheur.
Et ce moment-là, quand même, c'est quand même hyper flippant parce que t'as pas de rentrée de cash, t'as quand même des dépenses.
Non, mais à l'époque, j'avais notre atelier qu'on a gardé, donc 4 ans à Villejuif, qui me coûtait rien. Je payais 980 euros par mois, le prix de la. Enfin, c'était dérisoire. Et puis en vrai, il y a toute l'équipe qui a changé. Je crois que j'ai gardé 2 personnes qui, quand même, on faisait un petit roulement de fonds de production.
Mais ils étaient en CDI, CDD ou ils sont
alors
en freelance?
On a eu pas mal de freelance au début puisqu'on trouvait que on pensait en fait qu'on avait comme on faisait les salons 2 fois par an qu'on avait besoin de 2 pushes de production par an. Donc on s'est dit on va avoir besoin de nana pendant des périodes de 4 mois.
Ah, c'est court ça.
De 4 mois de 4 à 8 semaines alors qu'en vrai les trucs se sont étendus, donc on a eu pas mal de freelance au début, mais pareil, hyper compliqué à gérer dans la production parce que toi t'as besoin de quelqu'un qui te sorte ta production. Et la freelance, elle va dire, je suis dispo une journée telle semaine, 2 jours la semaine d'après, etc. Donc c'était compliqué.
Ouais, parce qu'elle est libre comme l'air, elle prend d'autres tafs à côté.
Oui, puis après, elle est capable de t'appeler le matin quand tu comptes sur elle en disant, je suis désolée, j'ai un contretemps, je suis pas là aujourd'hui. Enfin, il y a aucun attachement. Donc c'était compliqué en production. Et en fait, quand on a quand on a décidé de passer en e-shop, tout d'un coup, j'avais besoin de personnes pour une production permanente. Donc on a commencé à recruter à ce moment-là. Et que en contrat.
En CDI.
Ouais, parce que de toute façon, vu que le site était voué à marcher tous les jours et à potentiellement vendre tous les jours, on avait besoin d'une production permanente. Donc on a vraiment changé du tout au tout. Je pense que j'étais un peu tendue à cette époque-là et en même temps, je savais que j'allais pour le mieux. Tu sais, de temps en temps, tu sais que ça va être dur et qu'il faut serrer les dents. C'est qu'un moment passager parce que tu es en train d'organiser pour que ça aille mieux.
Ok.
Donc je sentais que j'étais dans cette transition-là. J'étais très soulagée en fait d'avoir quitté tout le wholesale. J'étais beaucoup plus apaisée. J'avais l'excitation du site internet parce que tout d'un coup, on savait qu'on allait avoir des marges correctes. Et si on avait des retards de production, à part nous, personne n'allait le savoir sur un lancement de produit ou quoi que ce soit. Et je sentais qu'on allait pouvoir communiquer nous-mêmes sur notre marque. Parce que ce qui m'ennuyait, c'est d'avoir les produits dans les boutiques avec le vendeur qui ne sache absolument pas dire que c'est du fait main. Tu vois, il y avait tout ça. Alors que là, tout d'un coup, on reprenait les rênes, chantait qu'on allait être beaucoup plus précis dans ce qu'on faisait, etc. Et puis nous, comme on grandissait aussi, on a commencé à affiner notre discours par rapport à la fabrication. Donc on a lancé le premier site internet qui a duré 8 mois, qui a très bien marché. On avait eu beaucoup de ventes à l'époque. Je ne sais plus quel était le chiffre d'affaires. Ça devait être mini. On devait faire 250 000 euros, mais... c'était sur 8 mois, on avait. Et puis je sais pas, j'avais cette liberté d'avoir le site. Enfin, j'étais mieux quoi. Je sentais que j'étais plus en train de marcher la tête rentrée dans les épaules, que là j'avais réussi à me redresser, qu'on avait une équipe qui était hyper sympa, etc. Et puis des filles que je connaissais au final, parce que. Enfin, que je connaissais, qu'on travaillait ensemble. C'est des filles qui étaient là tous les jours, donc on a quand même une relation de travail, etc. Donc ça me paraissait un petit peu plus normal. Et donc le site a très bien marché et puis jusqu'au jour où on a commencé à avoir des problèmes en production avec dès qu'on ouvrait les fours, on avait toute la couche supérieure de l'assiette qui craquelait. En céramique, ça s'appelle du tressaillage. C'est en gros une mauvaise équation entre la terre qui se rétracte à la cuisson et l'émail au-dessus qui va se rétracter. Pour que ce soit harmonieux, il faut que ça se rétracte de la même manière. Donc il y a plein de choses que... on peut faire pour ça. Il y a des agents de dilatation pour rendre l'émail plus flexible, etc. Donc c'est vraiment une petite tambouille que chaque céramiste a besoin de faire pour que les deux épaisseurs en fait soient harmonieuses et qu'il n'y ait pas de problème. Et je me dis, bon, c'est quand même bizarre qu'on ait ce problème-là, parce que c'est un truc qu'on a connu au tout début de la céramique, enfin, de quand j'ai commencé, et on avait déjà fait notre tambouille avec notre bain pour savoir exactement la recette, pour que les deux trucs soient exactement en adéquation. Et en fait, donc je me dis, bizarre, j'appelle mon fournisseur, je lui envoie les photos, je lui dis, je comprends pas pourquoi on a tout qui tressaille, etc. Et il me dit, bah, il faut revoir, peut-être que la terre est un peu modifiée, il faut revoir votre recette et refaire toute l'équation, etc., pour réadapter. On passe 3 mois à faire des tests dans tous les sens. Dès qu'on ouvre le four, il y a tout qui craquelle. Donc ça met, enfin c'est des,
ça rend
des
ouf, ouais.
Et puis c'est des, enfin c'est beaucoup d'argent mis par la fenêtre, quoi, parce que c'est des pièces qu'on peut pas utiliser.
Et quand tu lances un four, t'es obligé de mettre plusieurs assiettes. Enfin, t'en
non,
mets pas
alors
qu'une
après,
seule.
On a fait des tests de, on mettait moins d'assiettes, mais en fait, le problème en céramique, c'est que tout prend beaucoup de temps. C'est-à-dire qu'une pièce qu'on fabrique le lundi, elle va ressortir finie 3 semaines après. Ouais. Ce qui fait que t'imagines, pour voir ton test terminé, t'as 3 semaines
de latence,
qu'il arrive, de latence. Donc c'est pour ça que ça mange des mois très rapidement. Nous, en plus, on était engagés avec des commandes clients que du coup, on pouvait pas livrer. À un moment, on a cru trouver une solution. Donc les assiettes ne tressaillaient plus. Donc on s'est dit, c'est parfait, on renvoie les commandes. Et en fait, au bout de 3 semaines, les premiers clients qui nous disent, on a un problème, l'assiette est craquelée au-dessus, etc. Donc l'enfer. Après, on a toujours vachement communiqué dessus, et moi, j'ai jamais essayé d'enterrer le problème. On a dit au client, écoutez, on est désolé, on a un problème de... On n'arrive pas à trouver le truc, on va vous récupérer la commande, soit on vous rembourse, soit vous acceptez de patienter quelques temps pour qu'on puisse...
Mais c'est chiant, parce que tu passes vraiment pour un pimpin, non, quand même, à ce moment-là.
Eh ben, écoute, je pense pas qu'on ait eu, cette image-là, parce que je crois qu'on a toujours été... on a toujours vachement communiqué, tu vois, quand il y a eu les retards de commande pour livrer ces fameux clients, en fait, on leur a expliqué qu'on a eu des problèmes... qu'on veut pas que les pièces qui quittent l'atelier ne soient pas parfaites entre guillemets parce qu'elles le seront jamais, mais on veut pas qu'ils aient de problèmes, etc., que là on n'est pas content de la qualité de l'assiette et tout, donc on préfère les remettre en production. Donc je pense qu'ils ont beaucoup apprécié ce truc là en fait. Je trouve que quand on communique dans la vie, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'il suffit juste, plutôt que d'attendre qu'on te tombe dessus, d'aller dire, en fait, j'ai un problème, je comprends pas, j'ai ça, est-ce que... Et en fait, tout d'un coup, il y a une conversation qui est ouverte. Je pense que les gens en face l'apprécient. Et puis surtout, nous, ça nous enlève un poids, parce que si jamais la cliente dit c'est inadmissible, je refuse d'attendre, etc., écoutez, on est vraiment navré, on va évidemment vous rembourser votre commande dans les plus brefs délais, etc. Point barre, tu te mets le stress de côté rapidement. Ce qui est terrible, c'est de faire l'autruche, en fait.
Ouais.
La tête plantée dans le sable et d'espérer que la tempête passe, alors que là, on était face à un problème qui clairement n'allait pas se résoudre de lui-même.
Et donc là, vous fermez, enfin vous...
Donc là, non, alors on n'était pas encore, ça a duré pendant 3 mois, on a fait en plus des tests avec des nouveaux émaux, etc., il n'y a rien qui fonctionnait, et puis, et un jour, je crois que pendant la nuit, parce que c'est toujours là où j'ai des grandes révélations, je suis arrivée à l'atelier le matin, j'ai dit, les filles, il faut qu'on ferme le site, on ne peut plus vendre les produits, on va arrêter la production... Je vais devoir malheureusement me séparer d'une partie d'entre vous. En même temps, il y avait 2 filles qui étaient en CDD qui finissaient, dont une qui partait vivre
donc
à l'étranger, etc.
Pas, ouais.
Donc, dans ma malchance, ça tombait assez à pic. Du coup, j'ai gardé 2 filles. Et on a fermé le site internet. On a transformé l'atelier en laboratoire et on a passé 7 mois à faire des tests. Et dans les premiers mois, on s'est rendu compte que le problème, c'était pas l'émail, mais c'était la terre. C'était une terre naturelle qu'on utilisait. Donc, elle était, suivant là où elle était prise dans la carrière, elle pouvait changer légèrement de teinte, etc. Donc, elle était très peu calibrée, on va dire. Et en fait, c'est la terre qui, avec tous les dérèglements climatiques, en fait, s'est modifiée. Donc, c'est pas qu'elle est plus bonne ou qu'elle était pas bonne. C'est juste qu'elle s'est modifiée et que du coup, ça marche plus avec rien de ce qu'on utilise puisque la recette n'est plus la bonne. Donc bref, donc ça m'a
donc
pris du temps.
Ça veut dire que ça peut te retomber dessus demain.
Non, parce qu'on a changé de terre. Ah non, alors je vais pas me faire avoir une deuxième fois.
Ouais.
Alors j'adore l'idée d'utiliser de la terre naturelle, mais il y a un moment, il faut aussi que je sauve ma vie et ma boîte. Non, on a décidé du coup de changer de... Enfin, de toute façon, on était obligé de changer de terre puisque le fabricant lui-même, qui a quand même été très embêté par ces problèmes-là, parce qu'il y a eu beaucoup d'ateliers. Quand on a communiqué sur Instagram sur nos problèmes... J'ai eu, je sais pas, mais 250 ateliers en France.
Qui ont dit la même chose.
Qui ont dit, mais je suis sûre que vous utilisez la terre X, et machin, etc. Je dis oui, ils ont dit, pareil, nous, ça nous a tué la... Donc, le mec était quand même très emmerdé. Et du coup, on a changé de terre. Et on a surtout changé complètement la manière de fabriquer. Ça, ce qui a été très compliqué, ça a été donc de changer la manière de fabriquer avec une terre nouvelle qui était une terre liquide, et qu'on arrive à retrouver notre produit d'origine. Donc ça, ça a été peut-être le plus sportif de tout, quoi.
Parce que jusqu'à présent, vous façonniez.
On faisait tout au rouleau à pâtisserie.
D'accord.
Donc chaque assiette était faite l'une après l'autre au rouleau à pâtisserie, alors que maintenant on est passé à une technique qui s'appelle le coulage, on a des moules qui nous servent de gabarit, qu'on remplit de terre, on laisse la terre poser un certain nombre de minutes pour avoir la bonne épaisseur, on vide le moule, et en fait ce qui reste collé au moule, ça forme une espèce de croûte, et cette croûte en séchant va se rétracter, et c'est ce qui devient la tasse ou la forme que tu as décidé de faire.
D'accord.
Et en fait, ça nous permet... Alors déjà, c'est une technique, le coulage, qui est beaucoup plus adaptée à notre fabrication, parce qu'on est du 100% artisanal, mais on fabrique quand même en grande série. On sort, je crois, pratiquement 800 pièces par toutes les deux semaines. Donc on a quand même un gros rythme. Et moi, je voulais vraiment, dans l'artisanat, je voulais le côté art. Donc je voulais une pièce très finie, je voulais pas un truc complètement de traviole, même si je peux trouver ça tellement beau et charmant dans d'autres marques. Moi, je voulais le côté très aérien, très, très bien fini, etc. Et du coup, cette technique du coulage te permet d'avoir quand même des gabarits, ce qui fait que ta tasse, tu auras toujours à peu près la même forme de tasse et taille de tasse. On n'a pas de truc un peu...
Un peu bizarre, ouais.
Un peu bizarre, et surtout qu'on a un motif qui est fait entièrement à main levée. Donc les filles, elles apprennent le motif... c'est comme en fait de changer d'écriture, c'est-à-dire qu'on écrit tous les deux, mais c'est comme si je te demandais, il faut que tu apprennes à écrire comme moi. Pour que d'une pièce à l'autre, tu vois que c'est le même motif.
Ouais, même si c'est deux filles différentes, ouais.
Parce que c'est ça qui est difficile aussi dans un atelier de production, c'est en fait d'avoir une pièce qui passe dans les mains de 8 personnes différentes, mais tu veux que la pièce elle ressemble à celle que toi t'as créée au début. Tu veux pas que ça se voit qu'il y a eu 8 personnes qui sont passées sur l'assiette.
Comment tu fais ça?
Eh ben, tu t'organises militairement la production, quoi. C'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire que maintenant c'est une personne par atelier, donc par pôle de fabrication. Et tout est quadrillé. Maintenant la densité de la terre est mesurée, mais au poil près. Les temps de coulage, tous les moules, ils sont numérotés pour avoir les vieillissements des moules, parce que des moules neufs vont beaucoup plus absorber la terre que des moules plus usés. Non mais c'est militaire, enfin c'est un laboratoire, hein, la production. Il y a que les filles au dessin qui sont un peu plus en freestyle.
Ouais.
Après elles ont quand même fait 2 mois de formation quand elles sont arrivées chez nous, on les forme en interne.
Pour avoir la main.
Ouais, alors que c'est des filles qui dessinent, c'est des tueuses en dessin, mais quand elles dessinent sur les assiettes les 3 premières semaines, c'est comme si, elles disent vraiment c'est de réapprendre à dessiner, parce qu'on a un outil un peu particulier. Et donc voilà, elles, une fois qu'elles ont les motifs, elles ont des motifs attitrés pour être sûres qu'il n'y ait pas de différence dans le même motif. Et ensuite, elles font la production à main levée. Donc c'est celles qui sont en plus freestyle de toutes.
D'accord.
Parce qu'après, tout est vraiment mesuré. On a des densimètres dans tous les sens. On est à 2 doigts de mesurer l'air ambiant pour avoir le taux d'humidité la journée, etc. Donc voilà, donc tout ça, ça m'a mis beaucoup de temps parce que moi, personne ne me l'a appris, donc j'ai dû faire mes petites recherches toute seule.
Et il n'y a personne pour t'accompagner sur le sujet, là ?
Si, alors je suis très bien accompagnée avec mon fournisseur qui est toujours de très bons conseils et qui, je pense, s'est pris un peu au jeu de tous nos problèmes qu'on a eu de fabrication. Et du coup, je sens qu'il est excité, il a envie de savoir nos tests à chaque fois, de quand on a fait, parce que ça l'intéresse, quoi. C'est un mec qui a fait de la céramique toute sa vie. Donc on a été hyper bien entouré par lui et par 2-3 autres aussi fournisseurs qu'on a. Et ce qui est d'ailleurs hyper marrant, c'est qu'aujourd'hui la céramique, c'est un milieu qui est hyper féminin, alors qu'en fait tous les mecs de la céramique de la génération d'avant, donc là c'est des mecs qui ont entre 50 et 70 ans, qui sont vraiment connus en France pour être de la céramique, c'est que des mecs. Donc c'était un milieu en fait qui était très masculin et qui s'est complètement féminisé, c'est assez dingue. Aujourd'hui les céramistes ou les ateliers, c'est des nanas la plupart du temps, quoi.
D'accord, ok.
Donc voilà, donc on a donc fermé le site internet, on a transformé notre atelier en laboratoire, on avait en plus notre vaisselle, elle a une teinte qui était naturelle au début, une teinte assez ivoire. Qui est très importante parce que de faire notre vaisselle sur du blanc, c'est, on dirait, un truc qui... Enfin, c'est très moche. Désolée, Vicaire, j'allais dire.
On les salue.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on dirait... c'est tout... Enfin, c'est marrant, mais c'est la subtilité de certaines choses. Il faut que la teinte soit ivoire pour avoir la marque, quoi.
Bien sûr.
Et donc, il a fallu reteinter les assiettes. Donc ça a été compliqué. On a fait des tests de couleurs. On a fait avec des pigments. Donc, c'est des pigments naturels qu'on utilise et qu'on teinte. Mais on a fait pareil. Ça nous a pris 3 mois de tests.
Que tu mets dans la terre, c'est ça ?
Ouais.
D'accord.
pour avoir la bonne teinte de l'assiette, et ça a été
la croix et la bannière.
Délirant, quoi. Et puis une fois qu'on avait à peu près, on s'est dit, alors attends, là dans l'ivoire il y a quand même un peu de rouge, c'est très subtil, hein, parce qu'on est sur les 0,01 g de pigment de telle couleur, etc. Et voilà. Et écoute, au final, le Covid c'était quand, en mars?
En mars 2019, début, ouais. Enfin, en mars 2020.
Début mars, on sent qu'on est, 2019, on est pas loin, pardon, de relancer la production. Mi-mars, on se fait tout couper avec le Covid, comme tout le monde. Donc ça a été le deuxième coup dur, parce qu'en plus nous c'est sur les années d'exercice, en fait donc j'avais une partie de l'exercice qui était sur l'année où on a eu la production à terre à cause des problèmes de terre, ouais. Et puis quand on a commencé à relancer, le début de l'année où on a relancé, c'était le Covid, donc on est tous les ans, on a eu un drame en fait jusqu'à aujourd'hui. Là c'est la première année, je touche du
poids.
Donc voilà, il y a eu le Covid, en fait, et puis bon, j'ai accepté de ne rien faire, ça m'a fait beaucoup de bien.
Parce que pendant le Covid, pourquoi arrêter? Parce que l'atelier est fermé, parce que...
On a fermé l'atelier, déjà on était quand même tous un peu flippés à l'époque. Ouais. Moi j'avais les enfants, donc clairement je pouvais pas aller travailler parce que j'avais les enfants, quoi, qui étaient en bas âge. Et les filles, y en a qui sont retournées dans leur famille, parce que moi, elles étaient toutes jeunes, quoi, elles avaient toutes 25, 26, 27, etc. Et surtout, je me suis dit, en fait, je sais pas, on met tout le monde à l'arrêt, et en fait, on n'est plus à 2 mois près. J'en étais vraiment là, quoi. Et donc, on a tout arrêté. Et moi, j'ai juste bossé sur le lancement du nouveau site internet.
Ok.
Et quand on est rentré du Covid, on a relancé la production et on a réussi à relancer le site la dernière semaine d'octobre 2020. Et là, le site, pareil, a hyper bien marché. On faisait du paid, ça cartonnait. On avait des taux de conversion de dingue, etc. Donc ça, c'était top.
Et puis, j'imagine que vous avez plutôt surfé sur la vague Covid, parce que vous êtes un petit business qui a du sens, uniquement sur Internet, et surtout l'art de la table, quoi.
Ouais, l'art de la table. Et puis, on répond quand même, mais qu'on est vraiment sans greenwashing. On a une fabrication qui est 100% artisanale, on n'utilise que des produits français.
Made in France.
Ouais. Et puis on a surtout la transmission, parce que encore une fois, moi qui n'ai jamais fait de cours de céramique, donc j'ai tout appris, en fait, donc je suis très spécialisée dans ce que je fais. Mais par contre, tu me demandes d'aller faire je connais que ma spécialité, en fait. Donc je sais faire du 3-7, je connais toutes les étapes, je peux voir à distance dans l'atelier quand la densité de la terre, ça va pas. Je le vois juste à la manière, à la brillance de la terre qui coule dans le truc, et je lui dis direct, la densité, ça va pas. Donc je suis très très au point sur ma production. Mais on a aussi tout un rapport avec toute la transmission, en fait, parce que donc 100% des gens qui sont à l'atelier, mais depuis toujours, il n'y a pas une personne qui a fait de la céramique avant. Parce que je voulais vraiment avoir des gens qu'on puisse former à notre production. Et pas d'avoir le mec qui potentiellement s'y connaît mieux en céramique que moi, mais moins bien dans ma production, et qui me dise, ah non, ça, tu peux pas faire ça comme ça. En fait, ça fait 4 ans que je fais ça, donc autant te dire, je sais comment on le fait.
Mais c'est arrivé.
Et viens pas. Toujours, parce que t'as toujours. On me dit toujours, c'est trop compliqué. Moi, quand j'ai lancé 3-7, même mon fournisseur que j'adore, il m'a dit, non, mais vous y arriverez jamais comme ça. Ah non, mais c'est trop compliqué, mademoiselle Petit, arrêtez, c'est trop compliqué. Mais en fait, compliqué, on peut le faire.
Ouais. Ça prend du temps, mais on
ça
peut
prend
le
du
faire.
Temps, ça prend de l'énergie, etc. Mais, et en fait, je trouve qu'on. Je pense qu'Alix, elle a ça aussi un petit peu, mais j'ai l'impression qu'on est une génération où on suit tous des codes, et on a l'impression que si on connaît pas ou qu'on fait pas le truc comme ça doit être fait, on sait d'ailleurs pas trop qui a instauré les règles, en fait, ça va pas. Alors que moi, j'ai justement l'impression que... Je dis pas que je suis une anarchiste et que je suis pas les règles, etc. Mais c'est vrai que que ce soit pour 3-7, j'en sais rien si on montait les meubles comme il se doit dans la menuiserie. Mais en tout cas, esthétiquement, on était arrivé à ce qu'on voulait. Et dans la céramique, c'est pareil. Et en plus de ça, je trouve que la céramique, c'est un milieu qui... c'est vraiment ta tambouille et c'est tes heures de recherche. En fait, quand quelqu'un, ce qu'on me l'a dit plusieurs fois, non mais toi, t'es un peu... je sais plus comment on me disait ça, toujours de manière très sympa... pas la riviste de la céramique, mais en fait t'as pas fait de céramiste, comment est-ce que tu peux te déclarer céramiste? Mais en fait c'est un métier qui demande tellement le repli sur soi pour trouver ses formules, faire ses recherches, parce que personne va te les donner.
Bien sûr.
On va dire, tiens, pour de la faïence, ta courbe de cuisson du four, c'est ça, mais ça c'est à toi de tester, parce que suivant la terre que t'as, l'épaisseur de tes pièces, la courbe de croissance qu'on t'a donnée, elle va pas. Enfin, si un jour tu tombes sur la courbe de croissance qu'on t'a donnée et t'as de la chance, ça tombe, c'est exactement ce qu'il te faut, t'as de la chance. Mais moi, les courbes de cuisson, moi, ça m'a pris 4 ans en fait à trouver exactement comment est-ce qu'il fallait les au degré près, comment est-ce qu'il fallait les cuire, etc. Et ça, c'est un travail qui est très personnel et en fait qui crée la richesse de, je pense, de ce monde de céramistes aujourd'hui où on a tous des identités visuelles très différentes parce qu'en fait c'est le fruit de notre tambouille qu'on a fait. C'est un peu comme un pâtissier, quoi, j'imagine. C'est que tu as une recette de base pour faire un pain au chocolat, mais après c'est à toi de faire tes petites astuces pour ton produit soit le mieux, quoi.
Carrément.
Donc voilà, donc ça a été une longue ça a été long, mais ça a été très formateur. C'est à dire qu'aujourd'hui dès qu'il y a un problème, je peux dire qu'on est au taquet, on sait exactement comment le gérer. Et ça arrive tous les jours, hein, des problèmes en production.
Ah ouais, c'est quoi les problèmes ?
Bah, je te dis, ça peut être un changement brutal de température, où tout d'un coup, il fait très chaud, et puis on perd 20 degrés, donc t'as toutes les assiettes. Soit ça sèche trop vite, soit tout d'un coup, il n'y a plus rien qui sèche, et du coup, quand ça sèche pas, ça craquelle aussi. Ça peut être des problèmes de four. De temps en temps, on ouvre un four. Alors, c'est de plus en plus rare, mais on peut avoir un four qui a complètement brûlé à l'intérieur. Donc, on a toutes nos pièces qui sont marrons. Comme du papier craft.
L'enfer. Ok.
Mais c'est vraiment un métier qui, c'est vraiment pour moi un métier de résilience et d'acceptation. Il y a un rapport en fait
à la terre, l'objet au matériel.
Et puis à
matériel,
la matière,
ouais.
En fait, où matière. Tu piches que c'est plus fort que toi. Tu en fait, tu t'apprends à l'apprivoiser, mais que clairement, tu auras jamais le fin mot.
Ouais.
Et
t'apprends l'humilité, ouais.
Ah ouais, c'est genre, puis c'est vraiment un travail de patience, quoi. Il y a des fois, on est là, non mais. Oh tout est long, tout est laborieux, c'est vraiment un travail de fourmi qu'on fait. Et en même temps, c'est dingue. Et il y a plusieurs fois où j'arrive à l'atelier et je leur dis, mais vous vous rendez compte de ce qu'on fait? Enfin, c'est quand même délirant parce qu'il n'y a pas beaucoup de marques, hein, qui fabriquent tout encore 100% à la main.
Mais personne ne fait ça, non? Il n'y a que toi?
Bah, à Sylve Villatte, ils font toute leur fabrication, mais ils n'ont pas d'illustration.
D'accord.
Donc eux, ils font l'émaillage, etc. Nous, on a l'illustration qui est quand même un gros morceau. Parce qu'on a vraiment des pièces, des assiettes qui prennent entre 45 minutes et une heure de dessin.
D'accord. À Sylve Villatte, ils ont aussi un atelier à Paris.
Ils ont un atelier, je crois qu'ils sont à Ivry. Ils sont très nombreux, je crois qu'ils sont pratiquement 50.
Ah ouais.
Mais ils fabriquent encore à la main, ils font encore au rouleau à pâtisserie.
D'accord.
Et voilà, et donc c'est un métier en fait, et c'est un métier qui est à contresens de notre
époque,
génération.
Ouais.
Mais complètement. Nous, on a toujours l'impression qu'on est entre deux mondes, donc on est... avec la réalité concrète de notre fabrication qui est très longue, sur lequel en plus on dit qu'on gère, mais on gère poliment parce qu'il suffit qu'il pleuve pendant 3 semaines à Paris, c'est compliqué. Donc on gère sur certains points, mais pas sur tout. Et y a vraiment un rapport au temps qui est très long, qui demande une grande patience. Tu peux pas violer les étapes, en fait. Tu peux pas dire on va accélérer le séchage, dire on accélère, on se dit t'es génial, ça a séché en 2 jours. Tu le sors du four, ça a craqué parce que ça a séché trop vite. Enfin, Et à côté de ça, on vend en e-shop avec un shipping en 72 heures. Et je pense que les gens qui achètent chez nous aiment ce côté-là, fabrication française, le respect du temps, etc. Et en même temps, aimeraient bien qu'on soit Amazon Prime aussi. Donc il y a vraiment un dédoublement de la personnalité au niveau de concrètement ce qu'est notre métier, notre cœur de métier. Et aujourd'hui, le rapport aux réseaux sociaux, tout va rapidement, etc. Pareil, les Reels, nous, ça nous fait délirer, quoi, de se dire, on essaie de créer un contenu, de parler de choses un peu, de surélever un peu le débat. Et à côté de ça, ce qui cartonne, c'est nos Reels, où on est en train de...
De quoi?
En plus, tu mets tous les Reels un peu en avance rapide, parce que sinon, les gens, ça les fait chier de voir un dessin qui se fait en temps réel. Mais en temps réel, ça prend 45 minutes, donc tu peux pas faire ça. Donc en fait, on met un Reels en avance rapide du dessin, pour capter l'attention de la personne. Mais en fait, c'est contraire à ce qu'on fait, puisque nous, c'est le temps de fabrication et le temps de tout qui
on peut pas l'accélérer,
qu'on valorise.
Justement. Ouais.
Donc, si tu veux, on a toujours l'impression d'être en
Ouais, schizophrène.
Complètement schizophrène. Ouais.
Et alors, pour finir les milestones, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, vous avez mis d'aplomb la production,
voilà,
c'est bon.
On a relancé.
On sort du Covid.
On sort du Covid. On relance le site. Donc on sort du Covid en mai. On relance le site fin août.
Ouais. Vous êtes sur quoi, vous?
On est sur Shopify. De Vaillant, Shopify Forever.
Quoi. Ouais, ok.
C'est génial. On relance le site qui marche très bien. Et je remercie vraiment tout le soutien qu'on a eu pendant ces périodes-là, parce qu'on a continué à vachement communiquer sur les évolutions et les problèmes qu'on a eus. Et on a été vachement soutenus. Je pense qu'on avait à peu près 50 commandes qu'on n'avait pas pu livrer. Et on avait dit, quand il y a eu le Covid, j'avais envoyé un mail en disant, il y a le, enfin, je parlais aux filles, je leur disais, je sais pas combien de temps ça va durer ce truc-là. Et en fait, on avait donc donné la possibilité aux clients, on leur avait envoyé un mail en disant, on sait pas dans combien de temps on est dans ce truc-là. Nous, concrètement, la production va pas avancer. Ça fait déjà un an quand même qu'ils attendaient leurs pièces, pratiquement. Non mais dingue, on a eu vraiment des clients, enfin on a eu je pense 90% des clients qui nous ont suivis quoi.
Ouais, ouais.
Et on leur avait dit on peut vous rembourser votre commande et puis on espère que vous reviendrez sur notre site quand on aura réglé nos problèmes. Et sinon, est-ce que vous accepteriez d'attendre vraiment, etc. Et je te mens pas qu'on a eu mais plus de 90% des mails trop sympas qui nous ont dit la période est trop difficile, ça
pas
fait un an que vous vous battez. On vous laisse, on imagine que vous nous remboursez les commandes maintenant, c'est un enfer pour vous en termes de trésor, etc. On pense qu'on vous en avez assez bavé, etc. Donc on vous laisse, les... prenez votre temps et on sera trop heureux de recevoir nos commandes quand vous serez prêtes. Quoi.
Trop bien.
Tellement sympa.
Ouais.
Donc merci tous tout le monde si vous nous entendez. Donc voilà, on a relancé le site donc fin août qui a hyper bien marché. Et là, on était, on n'avait plus de problème, quoi. La production allait. Alors nous, on cherchait toujours à s'ajuster pour trouver notre nouveau système de production, parce que c'était quand même un peu sportif de réapprendre ça. Parce qu'on a vraiment, du coup, réappris à zéro, quoi. On est reparti à la case départ. Et puis, et donc ça, c'était en 2020. C'est marrant, ce que j'ai oublié, je crois qu'on a eu encore un gros truc qui est arrivé entre-temps. Je sais plus. En tout cas, on arrive jusqu'à maintenant, on a ouvert...
Tu les oublies maintenant, c'est bien. Ça, c'est la mémoire sélective des entrepreneurs.
Ouais, je sais qu'il y a eu un autre truc qui est arrivé qui a été un petit peu pénible. Pas du tout de production, mais bon, je sais plus. Bref. On a, en tout cas, développé le site, on a développé la gamme de produits, etc. Et on... Et à partir de, je pense, début 2021, j'étais à fond pour trouver une boutique.
Ok.
Parce qu'on a tellement de messages sur Instagram de gens qui, ou quand on voyait, etc., qui disaient « mais je peux pas vous croire que ce soit fait à la main ». Enfin, les dessins, qui sont en plus tellement réguliers maintenant, puisqu'on a tout vraiment mis au carré. Et en fait, on avait l'impression que notre produit, sans l'histoire, avait pas beaucoup d'intérêt. Et que nous, ce qui nous fait aimer le produit, bah, c'est de se dire « c'est dingue que cette pièce soit faite à la main et que toutes les lignes soient faites à main levée ». Et du coup, on avait besoin d'avoir une boutique avec l'atelier derrière. Il y avait beaucoup de gens aussi qui nous disaient « c'est compliqué sur votre site de se rendre compte des tailles, on aurait envie de toucher les produits, etc. » Et comme on a arrêté le wholesale, il n'y avait plus de boutique où ils pouvaient aller voir les pièces. Et du coup, je me suis mis en recherche d'une boutique. Je voulais évidemment être collée à Hempstone parce que ça serait trop dommage de ne pas l'être. Et du coup, dans ce quartier, c'était compliqué de trouver. Moi, je voulais vraiment une boutique de plein pied pour qu'il n'y ait pas de séparation entre l'atelier et la boutique devant.
Mmh. Elle est rue du Cherche-Midi, ça.
Oui, elle est au 23 rue du Cherche-Midi. Et donc, on n'a pas trouvé collé à elle, mais on a trouvé un très bel espace qui est au 69 rue des Saints-Pères, qui est l'ancienne boutique de Yamamoto.
D'accord.
Et qui est, pour la petite histoire, les anciennes écuries de Colbert. Donc, on a un espace absolument incroyable avec, tu vois encore, les vieilles poutres de l'époque, c'est très haut de plafond, etc. Donc l'espace était incroyable. Et on a trouvé l'espace, je dirais, en février 2021.
D'accord.
Donc après, il y a eu tous les trucs de signature, de machin, etc. Donc ça a pris
très
du
long,
temps.
Très lourd. Et donc là, tu récupères un bail, un fonds de commerce.
On récupère un fonds de commerce très beau, parce que ça fait 150 mètres carrés, où on a installé, je pense, bien 110 mètres carrés d'atelier.
Ok.
On a tout fait sous verrière, donc pour que les gens puissent vraiment voir l'atelier. Et en fait, chaque atelier, c'est un pôle de production. Donc, et on a fait quelque chose de manière assez logique pour la production. Donc, quand tu arrives, tu vois la fabrication, donc le point de départ, le travail de la terre, la fabrication des pièces. Tout derrière, tu as le séchage qui n'est pas très intéressant avec les fours qui sont tout au fond. Et ensuite, sur le côté, tu vois, ça fait comme une boucle. Tu as le ponçage, l'émaillage. Et on a mis les filles à l'illustration au milieu, parce que c'est elles qui intéressent le plus. Et donc, quand tu viens, bah, c'est un peu comme les cuisines ouvertes d'un restaurant où tu vois...
Il n'y a pas de vitres, hein, on est d'accord.
Si tu as des vitres.
Tu as des vitres, d'accord. Donc, vous êtes dans un bocal un peu...
Ouais, un bocal, mais qui ne s'est pas jusqu'au... Donc, tu vois, ça monte à 2,50 m et tu as encore 2,50 m de hauteur sous plafond. Okay. Donc, c'est très aérien. C'est très... Enfin, l'endroit est vraiment incroyable. Donc, on a eu énormément de chance de trouver ça. Et il y a la boutique devant. Donc, tu vois, vraiment, quand les nanas attendent que leur colis soit fait, elles regardent toute la production, etc. Et du coup, on a l'impression que ça... Bah, déjà, que les gens comprennent mieux et qu'ils comprennent... Ils comprennent mieux le produit, tu vois. Quand on a eu des gens qui nous disent ah, mais 45 euros la tasse, c'est cher. Mmh. Je peux te dire que quand ils arrivent dans la boutique et qu'ils voient une des filles qui dessine à la main, 45 euros la tasse, c'est carrément acceptable.
C'est donné.
Le travail qu'il y a.
Ouais.
Exactement. Non, en plus, on est 30% moins cher que des marques comme Assiette Vilate, qui n'ont pas d'illustration.
Ouais.
Donc on n'est pas du tout délirant dans les prix. C'est juste que c'est vrai que. C'est toujours le paradoxe hein, de notre génération, c'est que les gens ils veulent du fait main, ils veulent du bien fait, ils veulent du fait
de
manière consciente et en même temps c'est difficile. Ils voudraient ça au prix de
Ikea.
De Ikea quoi.
Ouais.
Et en vrai c'est pas possible.
Bah non, c'est pas possible.
Ouais.
Ok, et donc là ça fait depuis février 2021.
On a ouvert le fin novembre l'année dernière, donc il y a à peu près 8 mois.
D'accord. Et là,
donc on a eu 3 mois de travaux.
Ça explose. Ça fait.
On a cartonné la boutique toute la période de Noël.
Ouais.
On l'a fait en plus un peu en roulis parce que ça a été tellement sportif les travaux. Les mecs me disaient ça sera jamais ouvert pour Noël. Je sais, en fait, c'est pas possible, une question. Ouais. C'est qu'il faut qu'on soit ouvert. On peut pas louper la Noël. Donc on a cartonné Noël. Après on a aussi beaucoup de passages de touristes. Mmh. Donc on a beaucoup de gens de l'extérieur qui viennent. Il y a quand même toute le bon marché puis le quartier. On est quand même dans un des plus beaux quartiers de Paris. Donc on a beaucoup de... Donc en vrai, la boutique cartonne. Et par contre, on a un peu laissé tomber le site internet. Là, il faut qu'on le remette à jour parce que c'est un peu un dinosaure. Tu vois, on l'a fait il y a 2 ans, on était très contents. Mais là, il y a plein de choses. On voudrait que ça transpire l'artisanat.
Ouais.
Parce qu'en fait, dans la communication qu'on a depuis maintenant 1 an, il y a vraiment toute la partie artisanale qu'on est en train de vraiment développer. C'est-à-dire que les mains dans la terre, toute cette partie-là. Il y a ensuite le produit, mais qu'on voudrait un petit peu effacer parce qu'on s'accorde pour dire qu'une assiette 3-7, on la reconnaît parmi d'autres, on a une vraie identité. Et après, on voudrait directement parler beaucoup et mettre en avant le lifestyle, parce que ça moi, c'est un gros, gros sujet, tout ce qui est alimentation, tout ça.
Okay.
Et il y a vraiment le désir de... Enfin, clairement, je pense que j'ai fait de la vaisselle pour avoir
pour
une
manger.
Jolie assiette pour manger. Comme on est quand même très branché ça dans la famille. Et du coup, il y a vraiment tout un... une partie derrière sur la manière de se nourrir. Je dis tout le temps, en fait, que de manger, de prendre 5 minutes pour se faire un joli café le matin dans une tasse, en fait, c'est quand on parlait des petits moments de bonheur, c'est en fait tout d'un coup, c'est un fragment de seconde où on se dit, tu bois dans un beau café, dans une belle tasse, t'as envie de te faire un beau café. Et du coup, tu prends le temps de boire ton beau café.
Mmh.
Et en fait, ça te change quand même un peu ton rapport à, tu vois, au speed de tous les jours avec les enfants, de te faire un truc dégueu sur le pouce et tout.
Mmh.
Donc voilà, il y a toute la partie lifestyle. On fait beaucoup de recettes de cuisine qu'on développe beaucoup. On est toujours en train de chercher un moyen de voir comment est-ce que tout ça concrètement, ça engendre des clics.
Ouais.
Parce que c'est beaucoup de contenu qui est très long à développer pour nous.
Ouais.
Et en fait, on a de temps en temps l'impression que les filles viennent prendre toutes les recettes et que...
Qu'elles n'achètent pas.
Non, même pas qu'elles n'achètent pas. Si elles achètent, évidemment, tant mieux. Mais c'est vrai que, tu vois, on aimerait qu'il y ait plus d'engagement, que les filles nous envoient les recettes. Parce que de temps en temps, on enlève des recettes et tout d'un coup, on prend 10 messages de nana. Ah, mais où la recette de ça? On est là, en fait... Tu vois, il n'y a pas beaucoup d'échanges.
Ouais, d'accord.
Donc, y a beaucoup de création de contenu. Nous, ça nous prend un temps fou d'aller shooter les recettes, de tout mettre en scène, la table, etc. Et donc, on essaie de comprendre un petit peu mieux comment est-ce qu'on peut générer ça de manière un peu plus smart, quoi.
Ouais. Comment vous allez chercher de nouveaux clients?
Alors ça, j'allais te poser la question.
C'est un gros sujet? C'est le sujet du moment?
Ouais, c'est un gros sujet parce que clairement, il faut qu'on refasse là tout le site. Je pense qu'il faut qu'on se remette quand même dans les campagnes sponsorisées qui marchent très bien.
Ouais.
Et après, l'acquisition de clients, c'est un boulot sans fin, qui est très long, je crois.
Ouais.
Enfin, je crois, enfin, nous, on est
très
long pour
nous, en tout cas.
Ouais,
oui, bien sûr.
Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment réussir à faire adhérer les gens. Enfin, nous, on ne veut pas les faire adhérer au produit. Nous, on a envie d'avoir l'image de marque et qu'ils adhèrent à tout ce côté artisanal, consciencieux. Il y a un travail... le travail qu'on fait avec la terre, quand moi, je passe en cuisine, il y a clairement un lien... tu vois, le temps de prendre du temps à fabriquer les choses et prendre le temps de cuisiner bien, de essayer d'apporter un de réapporter un peu de sens, en fait, de toucher, d'odorat, de, tu vois, d'intuition, de choses comme ça. Et du coup, on a envie de, voilà, de, d'envelopper, d'avoir un petit peu, de réussir à aller dans cette gamme-là de gens qui sont un petit peu intéressés par tout ce milieu, en fait, de se faire du bien à soi. Et c'est un côté très intérieur, en fait. Parce que c'est un bien-être pour soi de se faire une jolie assiette pour manger, c'est avant tout pour toi,
te faire du bien.
Et on a quand même l'impression qu'on reste dans un monde qui est très dominé par l'apparence extérieure, par donc on est un petit peu entre deux vagues là-dedans.
J'imagine que vous échangez beaucoup avec Alix en permanence sur tous ces sujets.
Ouais, on en parle beaucoup, et c'est vrai que l'approche est très différente, quoi. Nous, on a Alix, je pense qu'elle a un gros potentiel de fidélisation de sa clientèle, et qu'elle a vraiment quelqu'un qui aime telle robe Hemstone, en fait, qui a trouvé sa coupe. Va avoir tendance à venir toutes les saisons racheter le modèle et puis à accepter l'évolution des modèles, etc. Nous, on a un business model qui fait que en fait, on sort pas de nouvelles collections. On a de temps en temps des petites capsules comme les capsules Léopard, les Shades, etc. Mais en fait, moi, j'avais vraiment à cœur en lançant la marque, mais depuis le début, d'avoir une collection permanente. Et en fait, de sortir de ce délire de saisonnalité,
de drop,
etc. Donc, ce qui fait que, et puis parce que aussi notre artisanat nous permet pas de le faire, c'est-à-dire que notre problème, c'est de ne jamais avoir suffisamment de stock. Donc, on n'a jamais de stock à écouler. Puis, comme on n'a jamais de fin de saison et de saison, on n'a pas de. Donc, il y a quand même dans l'artisanat quelque chose qui pousse à une consommation, une fabrication très raisonnée et raisonnable. Et nous, c'est vraiment ce qu'on a envie de mettre en avant. Donc, c'est vrai que les filles qui viennent acheter, une fois qu'elles ont acheté un service de 6 assiettes x 2, des 4 tasses et 4 bols pour le petit déjeuner, elles vont venir acheter ponctuellement quelques produits quand on les sort, des nouveaux vases, etc. Mais en fait, on estime que il faut qu'on aille tout le temps chercher des nouveaux clients pour remplir leur placard chez eux.
Et le potentiel de nouveaux clients, tu penses qu'il est énorme?
Je pense qu'il est énorme, mais il faut beaucoup de moyens. C'est toujours le nerf de la guerre. C'est que pour se développer, il faudrait qu'on ait un budget communication
démesuré, enfin complètement dingue.
C'est-à-dire que.
Donc, vous, en termes d'acquisition aujourd'hui, vous faites pas le paid, mais vous allez remettre un petit peu les choses en route. Mais bien sûr, il y a le bouche-oreille, la boutique, etc.
Il y a quand même cet outil aussi incroyable d'Instagram.
Ouais. Un peu de wholesale quand même, parce que. C'est juste un
pop-up chez... Alors, il y a le bon marché, je pense, qui va aussi beaucoup nous aider. Là qu'on installe le 22 octobre, ce qui me fait un sursaut au cœur quand j'y pense, que c'est vraiment demain. Il y a ça, et puis je pense qu'il y a vachement, on a envie de développer beaucoup les collaborations. Tu vois, il y a plein d'hyper hyper belles marques, on peut développer un produit, faire une collaboration, j'en sais rien, avec un espresso, pour tu vois, toute une série de petites tasses à café avec un motif qu'on choisit, qu'on fait à la main, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire. Comme on a la chance de faire de l'artisanat, on peut vraiment développer ce qu'on a envie.
Et vous faites pas mal de RP aussi.
Ouais, on fait pas mal de RP. On a développé, qui marche hyper bien, des privatisations de l'atelier. Donc on a eu des marques qui ont privatisé, dont Chanel qui est venue. Je crois qu'on était 14. Et donc on fait vraiment un espèce d'énorme apéro healthy with a dirty twist. Donc on fait vraiment, on passe en cuisine, etc. On fait un très bel apéro. Et ensuite, on fait toute une visite de l'atelier, donc on explique vraiment toute la fabrication. Et après, les filles peuvent dessiner, on leur met plein de pièces devant elles, et elles peuvent dessiner sur les pièces qu'elles veulent. Et ça marche hyper bien. Et ce qui est trop marrant, c'est que tu as évidemment tout le monde qui se dévalorise en arrivant, en disant « Ah non, mais je suis pas du tout artiste, je sais pas dessiner, etc. » Et en fait, elles arrivent à l'atelier, donc ça parle dans tous les sens. Et à partir du moment où elles se posent, et qu'elle commence à dessiner, il n'y a plus une mouche qui vole, enfin, tu sais, c'est le néant, quoi. Et tu vois que les filles sont toutes mais complètement absorbées, parce qu'il y a quand même un truc de faire avec tes mains qui est bon pour tout le monde, que tu sois artiste ou pas artiste. Et moi, la première, moi je suis nulle en dessin, et c'est moi qui ai développé tous les dessins de la marque. Et qu'en fait, je m'étais dit, j'ai pas de talent pour faire du dessin, et que en même temps, je me dis, c'est de pas savoir dessiner qui a fait que j'ai fait des dessins très simples, c'est que des trucs des motifs, c'est de répétition. Et aujourd'hui, c'est devenu l'identité de la marque, alors que vraiment, je dessine mal, quoi. Donc on a fait pas mal de privatisations qui marchent, et je pense que n'importe qui rentre et qui met les mains dans la terre, il y a quand même un rapport à la matière qui est assez dingue. Je crois que c'est un peu comme n'importe quelle personne qui tout d'un coup se retrouve à la campagne avec des biches qui passent dans le jardin, qui vont tout d'un coup dire non mais c'est dingue. Enfin, c'est magique, un côté de rapport en fait
à la nature,
à l'essentiel, quoi.
C'est clair. Tu veux l'emmener où, Free Seven, là? T'imagines quoi, hein? T'as quoi? C'est quoi tes rêves?
Alors, j'ai beaucoup d'ambition sur Free Seven.
Ouais.
Alors déjà, il y a la marque Free Seven Paris telle qu'elle est aujourd'hui, que je voudrais vraiment développer en tant que marque un peu flagship et la marque, parce que je pense qu'on peut faire beaucoup de choses. J'ai envie de développer plein d'ateliers de céramique et de cuisine. Parce que pour moi, il y a un lien hyper direct entre les deux et quelque chose qui est très nourrissant quelque part. Tu vois, quand on entend toujours, ou même sur Instagram, quand on poste, mais j'ai pas le temps de cuisiner, etc. En fait, ça prend pas plus de temps que de cuisiner, que d'aller t'acheter ton truc chez Picard surgelé. Mais par contre, ça va beaucoup mieux te nourrir, c'est-à-dire pas uniquement sur ce que tu mets dans ton estomac, mais le temps de passer de couper tes tomates,
c'est
de regarder,
ouais,
de sentir, de mettre de l'huile d'olive, d'ajuster, etc. En fait, tout ça, ça sert à éveiller un peu les sens et qu'on oublie d'utiliser, quoi. L'odorat, le goût.
Ça magnifie le quotidien, hein, c'est sûr.
Exactement. Et puis après, la satisfaction de se dire, on s'est fait une bonne assiette, plutôt que j'ai mangé de la merde, du coup, je culpabilise toute la journée.
Et je me sens mal.
Ouais, je me sens mal et puis je suis fatiguée. Et en fait, ça prend beaucoup plus de temps, tout ça, que juste de dire, attends, je vais aller au supermarché d'à côté ou au primeur s'il y en a un. M'acheter des haricots verts et un brocoli avec une bonne burrata. Enfin, j'en sais rien. Moi, je cuisine tous les jours de ma vie. Ouais. Je suis débordée parce que j'ai mille choses à faire. Mais par contre, il n'y a pas moyen que je...
C'est ton moment pour toi, un moment de méditation.
Ouais.
Moi, je le fais depuis qu'on a changé aussi d'appartement. C'est sûr que c'est un moment magique, quoi.
Et ça prend pas beaucoup de temps.
Et ça prend
pas beaucoup
de temps.
Tu peux te faire un truc très bon en 10-15 minutes. Et puis pendant que ça cuit, tu te fais
deux
mails.
Mais tu te fais tellement de bien par ailleurs, quoi.
Ah ouais. Et moi, j'ai toujours la grande satisfaction, en fait, de me dire « Attends, là, j'ai mangé genre des patates douces. Je sais que ça va m'apporter ça et ça au corps. » Enfin, et du coup, ça me nourrit autrement aussi, quoi.
Donc, créer des ateliers à la fois de cuisine et de céramique.
Ouais.
Céramique, pardon.
Exactement. Et bref, de faire ça. Ensuite, il y a donc la marque. Clairement, on a un gros boulot pour développer plus parce qu'aujourd'hui, on est quand même. Enfin, je me dis, on a pas mal de clients, mais à l'échelle de la France, on est anecdotique.
Peanuts, ouais.
Donc, ça, je voudrais vraiment pousser cette.
Mais comment tu le fais, ça? Avec le paid, avec les RP, avec tout ça.
Avec le paid, le RP, je pense qu'il y a beaucoup de, je te dis, des collaborations. Tu vois, il y a plein de, pour aller taper un peu dans d'autres marques où on a des clientèles en commun. Et après, il y a, j'adorais, alors ça paraît très bizarre, faire de l'industriel.
Ok.
Ouais, j'adorais parce qu'en fait, on est à la fois très libre dans l'artisanat et en même temps très limité parce qu'il y a plein de motifs que j'adorais développer, mais qu'on a déjà testé, mais qui prennent 3 jours à faire en dessin, donc clairement pas rentable. Donc on est très limité au niveau... Enfin, c'est très paradoxal. On est à la fois... on n'a aucune limite dans ce qu'on va... On a envie de créer les formes, les motifs et tout, mais dans le temps de dessin des choses. Voilà. Et du coup, j'ai beaucoup d'idées de vaisselle que je voudrais développer et qui, clairement, il faudrait... Ou du semi-industriel, même.
Donc, c'est-à-dire qu'il y aurait un Free Seven Gold et un Free Seven peut-être, qui coûterait peut-être un peu moins cher ou pas forcément?
Non, alors ça serait très différent de Free Seven, parce que ça m'ennuierait de faire du Free Seven tel qu'il est aujourd'hui en version industrielle. Mais ça serait des vaisselles complètement différentes. Je pense qu'il y aurait une patte Free Seven parce que ça vient
c'est
de
toi,
moi, donc...
Ouais.
Voilà, mais de faire du 3-7 pour développer pour les restaurants. On est beaucoup approché par les restaurants et les hôtels, sauf que nous, on fait de la faïence, qui n'est pas du tout adaptée pour de la grande consommation. Nous, c'est vraiment de la vaisselle pour faire un joli dîner chez soi. Et du coup, je voudrais développer toute une ligne industrielle. Et là, du coup, bombarder en wholesale, etc. J'ai envie d'aller sur les salons de maisons et objets et de recommencer ça.
D'accord.
Et pour un truc différent où, en fait, je ne m'occupe pas de la production. Ouais.
Mais tu changerais de nom, alors?
Oui, je pense que ça peut-être même en... Oui, ça serait peut-être pas forcément sur Non-Sri Seven. J'ai pas encore pensé à tous ces détails-là,
d'accord,
mais en tout cas...
C'est des envies du moment, quoi.
Ouais. Mais pas du moment, depuis un moment, parce que c'est marrant ce que Alix me dit, non mais quel rêve que tu puisses faire tes trucs dans ton atelier en propre. Et moi je lui dis, non mais quel rêve toi quand t'as des trucs où t'envoies un bon de commande et tout le monde, et c'est quelqu'un d'autre qui s'emmerde avec la production et tous les problèmes sous-jacents de la production. Donc c'est toujours, tu penses toujours clair, mais
plus vert ailleurs, ce que j'allais dire, ouais.
Et après il y a toute la partie aussi cuisine, recettes,
oui,
livres de recettes, etc. Parce
d'accord.
que clairement c'est clairement ma cam, quoi.
Ouais. Est-ce que t'as des moments où t'as envie d'arrêter?
Jamais.
T'as pas eu de moment où
non.
tu t'es dit, putain, fuck, ça me saoule ce truc, c'est un sacerdoce?
Non, parce que j'ai l'impression que plus c'est dur, plus il y a des problèmes, plus j'aime. Enfin, de temps en temps, ça me crève. Hein. J'étais ravie qu'on trouve... Enfin, je suis ravie que...
C'est bien d'avoir des solutions, quand même. Ouais.
Non, mais j'adore quand on met un gros paquet de merde sur le bureau le matin et qu'il faut qu'on... Et j'adore travailler en équipe, donc j'adore qu'on se pose des questions, challenger un peu les filles, leur poser des questions, avoir... Donc, on échange beaucoup. Et j'adore trouver les solutions, en fait. Mmh. Donc, j'aime bien... Donc, non, je me suis jamais dit que j'allais arrêter.
Ouais.
Et si je peux le dire évidemment quand je suis fatiguée en rigolant ça serait plus facile si je travaillais et que je partais à 7h le soir sans me poser de questions et que je pouvais vraiment être en vacances et ouais. C'est ça qui est dur en fait, c'est que oui on a beaucoup de comment dire, on a beaucoup de liberté en étant entrepreneur parce qu'on a nos horaires etc, mais à côté de ça on travaille, enfin moi je travaille concrètement 12 heures par jour.
Moi, tu t'arrêtes jamais en fait.
Non, y a pas, tu y a peux pas jamais vraiment lâcher le week-end. Quand il y a un problème, bah, c'est toi qui dois trouver les solutions. Ouais. Parce que nous, on n'est pas encore une énorme équipe. Donc,
c'est vrai que c'est un espèce de marathon qui s'arrête jamais. Quoi.
Qui s'arrête jamais. Moi, je pars jamais en vacances en me disant je peux vraiment couper. Donc, t'as quand même une fatigue latente que tu traînes. En plus, bah, entre-temps, t'as eu des enfants, etc. Donc, t'as l'impression que c'est une fatigue que tu vas jamais récupérer. Et après, je suis assez optimiste et je me dis toujours que c'est des. Que rien n'est éternel, donc quand c'est dur, ça n'est que c'est qu'une période. Tu sais pas quand est-ce que ça va finir, mais c'est pas tu trimes pas à vie en fait.
Oui.
Tu sais, c'est pareil avec les enfants, les premiers mois quand tu dors pas, que tu fais des nuits blanches. Je me le disais tout le temps. Je me dis en fait, essaie d'apprécier ces moments-là.
Oui, parce que bientôt ça sera.
Tu vas les regarder avec nostalgie quand il aura grandi, qu'il n'aura plus travaillé la nuit. Et en même temps, ça n'est que c'est très fatigant, mais ça n'est c'est pas un état permanent. Et donc je me dis qu'il faut réussir dans chaque tu sais, il y a ce truc en yoga qui est un peu bateau, et en même temps, je trouve que c'est une phrase qui est pas bien, c'est toujours de trouver du confort dans l'inconfort. C'est que d'être challengé, en fait, t'es jamais bien parce que c'est stressant, tout d'un coup, tu sais pas si tu peux mettre ton pied à gauche ou à droite, ça pique un peu de partout. Mais pour moi, c'est vraiment une manière de stimuler et en fait de grandir. Je prends toujours, tu vois, ce qui nous arrive, où je me dis toujours, il y a quelque chose derrière que je peux pas voir aujourd'hui, mais qui va nous faciliter la vie. Tu vois, par exemple, les gros problèmes de production qu'on a eus il y a maintenant 2 ou 3 ans, je sais plus.
Ça vous a obligé à structurer.
Mais jamais on n'aurait pu ouvrir la boutique si on n'avait pas eu ça, parce que jamais je n'aurais changé de manière de fabriquer. Ce qui fait que jamais on n'aurait pu être fabriqué suffisamment. Et puis il a fallu 2 ans pour que je vois ça, mais aujourd'hui je me dis, mais heureusement que ce truc-là nous est arrivé à ce moment-là.
Oui, et pas dans 5 ans.
Ça nous a tellement fait grandir et tellement. Donc non, j'ai jamais envie d'arrêter. Par contre, le jour où j'ai envie d'arrêter, je peux l'arrêter en 4 jours. Hein.
Ok.
Ouais, il n'y a aucun. J'ai pas vraiment d'attache matérielle, et puis j'en ai. Non, je peux vraiment changer. Ouais. Tu me dis demain on déménage là, il faut juste que je digère le truc. Une fois que c'est digéré, je le fais sans vraiment regarder en arrière, et je me dis que la vie d'avant et ce qui ça fera partie de toi pour toujours, quoi. Je me dis nous notre vie quand on imagine, on en parlait la dernière fois avec mon mari de notre vie à New York. On se disait, mais tu te rends compte, la liberté, à l'époque, on n'avait pas tout ce poids écologique sur les épaules, donc au mieux, tu fermais ton robinet en te lavant les dents, mais on était quand même sur du léger. On clopait encore dans les restaurants, on conduisait avec un petit peu trop, si on avait bu un peu, on se posait pas trop la question, enfin, on était quand même dans un monde d'insouciance.
Total, ouais.
Et du coup, de temps en temps, je peux y penser, enfin, je pourrais y penser avec un peu de nostalgie, en même temps, je me dis, non, c'était une époque, et puis je suis contente que ça passe à une autre époque, et que... Et que voilà, que les choses évoluent et que. Et que voilà. Donc, non, je pense jamais arrêter. Plus c'est dur, moins j'y pense.
D'accord.
Parce que j'ai vraiment un truc de. En fait, je vais y arriver et je sais que je peux y arriver. Donc, j'ai pas ce doute-là en moi.
Trop bien. Ok, je pense qu'on a fait un grand tour. Hein. Ça fait déjà une heure et demie qu'on est ensemble.
Parce que je suis très bavarde, donc j'ai essayé de scinder
de synthétiser.
Mais bon, je sais que tu as des épisodes hyper longs.
Qui durent beaucoup plus longtemps, bien sûr. Est-ce qu'il y a rien que tu ferais différemment dans tout ce que tu as fait?
Ah, si, il y a toujours plein de choses que je ferais différemment, mais comme je ne peux pas le changer, je le garde dans le coin de la tête, mais je ne me martèle pas avec.
D'accord.
Et je pars, comme je me connais, je suis quand même très perfectionniste et bosseuse, je me dis toujours que ce que je fais, enfin, ce que j'ai fait, j'ai pu peut-être mal le faire, mais je l'ai fait du mieux que je pouvais au moment où, avec ce qui m'était donné à ce moment-là, est-ce que je... Et pareil au quotidien avec les enfants. Il y a plein de choses qu'on fait sans doute mal, mais je sais que j'ai beaucoup d'amour envers eux et que ce que j'ai fait, je l'ai fait du mieux que je pouvais avec ce que je pouvais, et que évidemment je regarde derrière et je me dis, t'aurais pu faire ça comme ça.
C'est très à Corteltec tout ça. Hein.
Ouais. Non, mais je trouve qu'il faut, parce qu'en fait, je trouve qu'on est, on est vraiment une... nous, de comme on est beaucoup sur Instagram, on a beaucoup de nanas en fait qui nous envoient des messages hyper intimes,
ouais.
Qui ont l'impression que la vie est vachement facile pour nous. Alors qu'en vrai, nous, enfin moi, j'ai l'impression d'être entraînée comme ça, donc j'y pense plus et puis j'encaisse les trucs, je le libère assez rapidement, etc. Mais je trouve que on est surtout les femmes, une génération en fait, on se tape dessus tout le temps, quoi. Il y a tout le temps de faire quelque chose et deux secondes après, l'autoflagellation. Ouais. Et c'est marrant parce que c'est ce que... je ne sais plus quand est-ce que j'avais eu cette conversation-là, mais je disais que... En fait, tous les mouvements féministes, en fait, pour moi, la position dans laquelle on est aujourd'hui, c'est parce que nous, en tant que femmes, on n'a pas pris la place qu'on devait prendre et qu'on s'excuse de... On s'excuse de porter un enfant et de donner la vie. Enfin, excusez-nous, messieurs, quand même, mais... Tu vois, quand. Et en fait, alors que ça serait vous, les hommes, qui porteriez des enfants, ça serait.
La cata.
Ouais. Ouais, non, pas la cata, vous feriez sans doute ça très bien, mais je veux dire, on en parlerait comme
on
un
super. On ferait
des
caisses, ouais, bien sûr. Ouais.
Et donc.
Mais on aime les hommes aussi sur ce podcast.
Non, mais moi, et j'adore. Et c'est marrant parce qu'on a toujours ce rapport-là de dire non, mais l'égalité homme-femme, moi, en vrai, l'égalité sur plein de choses, oui, mais je suis aussi contente que mon mari soit mon mari et qu'il fasse des trucs de mec que moi, j'ai pas envie de faire parce que c'est pas. Enfin, donc moi, ça s'équilibre très bien comme ça. Mais non, mais c'est vrai que je trouve que, qu'en tant que femme, il faut apprendre à arrêter de se taper dessus. Il faut surtout apprendre à se valoriser quand. Quand on fait quelque chose, je disais là toutes les filles sur Instagram qui me disent non mais moi avec mes enfants, je dis mais est-ce qu'une fois vous dites en fait félicitations d'avoir géré le dîner des enfants, le drame du petit qui veut pas se laver les dents et qui a fait une crise de nerfs, de les avoir mis, enfin, et est-ce que quand vous rentrez dans votre lit vous dites putain je suis quand même
une superwoman.
Ouais, donc je pense que le travail vient beaucoup de nous, quoi.
Clairement.
Ouais. Notre rapport à nous et la manière dont on se regarde nous, donc
le regard qu'on porte sur soi-même.
Ouais, parce qu'en fait, ça vient que de là, quoi. Les gens te donneront la place que toi, tu décides de prendre et il faut un petit peu l'affirmer, quoi. Gentiment, voilà, mais...
La parole impeccable. Les accords Toltec, une fois de plus. Tu aimerais entendre qui dans ce podcast, toi ?
Je savais que tu allais me poser cette question, j'ai pas préparé. Si je dis toujours, moi, il y a une femme que j'adore, Perla.
Sarah-Jeanne Schreiber, ouais.
Mais tu l'as, non, tu l'as pas.
Non, je l'ai pas interviewée par Sarah-Jeanne Schreiber.
J'adore parce que bon, elle est clairement plus vieille que nous, mais je trouve qu'elle a un discours qui est tellement moderne. Et en fait, je la connais un petit peu et je trouve qu'elle est tellement moderne, vivante, solaire. Enfin, il y a tout, les yeux souris, on dirait des petits soleils partout, etc. Et je trouve qu'elle a un discours qui est
qui est rafraîchissant, ouais.
Ouais, enfin, qui culpabilise beaucoup aussi. Ouais. C'est du bon sens, point barre. C'est que, en fait, tu dis, bah ouais, pourquoi c'est si compliqué ? Alors que, voilà, ça peut être beaucoup plus simple. Donc, j'adore cette femme.
Ouais.
Voilà.
Trop bien. Eh bien, écoute, parfait. Tu passes le flambeau à une autre femme. Merci infiniment, Caroline. C'était cool de t'avoir. Et je te dis à très bientôt et good luck pour le futur, ton futur.
Ouais.
Ciao.
Merci de m'avoir invité.
Je t'en prie. Salut.
Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références, c'est simple. Allez sur le blog du podcast www.entreprendredanslamode.com. Aussi, si vous souhaitez me contacter ou me suggérer de nouveaux invités, vous pouvez le faire sur Instagram sous le pseudonyme @entreprendredanslamode. Enfin, le plus important, laissez-moi un avis sur Apple Podcast ou iTunes, 5 étoiles de préférence. Cela m'aide à faire connaître le podcast à plus de monde et m'encourage à faire de meilleures interviews. Merci de soutenir ce podcast et à bientôt pour un nouvel épisode.